Bien, bonjour à toutes et à tous. Avant d'expliquer la démarche, la méthode, je voulais faire quelques excuses concernant des absents ou des absences et puis quelques remerciements sur cette journée qui s'inscrit dans une thématique qui est une thématique phare pour Poitiers et ses acteurs qui étaient regroupés sous un terme un peu comme ça, ABSCON, EdTech, éducation et technologie, dont Poitiers, Grand Poitiers et ses acteurs, donc université, les réseaux nationaux, ont décidé de s'emparer pour faire de Poitiers un territoire de référence en la matière. Alors la question de la référence renvoie à des problématiques dont je parlerai tout à l'heure, c'est-à-dire une réflexion, une mise en action et surtout de penser à un certain nombre de choses. Je voulais excuser tout d'abord l'absence de Gérard Blanchard, le vice-président de la région, qui avait prévu d'être parmi nous. Il a fait partie des élus qui, au niveau de la région, ont fait un maximum d'efforts pour que cette notion d'éducation et de technologie, donc le terme EdTech, soit à Poitiers un point important, donc liant la recherche. Donc Jean-François Cerisier, qui dirige un laboratoire qui s'appelle Techné, qui parlera cet après-midi, viendra montrer quel est le chaînage qu'il y a entre recherche, mise en application. Et pour l'espace Mendès France, il s'agissait avec la région de trouver les moyens de populariser cette notion. Alors au-delà de EdTech, c'est qu'est-ce que la technologie et les technologies du numérique apportent. Quelles interrogations sont posées autour de ça. Donc l'idée d'une journée, comme il y en a une vingtaine par an dans cette salle, c'est davantage pour émettre un certain nombre d'avis, de réfléchir et de débattre, ce qui peut permettre à des acteurs présents, y compris nous, l'Espace Mendès France, de configurer une programmation digne de ce nom pour permettre à nos concitoyens de se confronter à ce qui est un vrai problème de société. Éduquer à l'ère du numérique, c'est un enjeu dont on est à la préhistoire, en fait, hein, si on regarde un petit peu les choses. Et beaucoup de choses restent à faire. Donc le fait que cette salle devienne un espèce de laboratoire d'idées, c'est aussi pour tout à la fois se mettre en perspective sur les thématiques. Hein. Nombre de thématiques scientifiques et techniques ont été abordées ici depuis un demi-siècle. D'ailleurs, on a commencé dans cette salle en 1994 avec Edgar Morin, qui était venu nous parler de développement durable. Dans la salle à l'époque, et en France en particulier, ce mot était absolument inconnu de tout un chacun. On sait ce qu'il en est advenu depuis. La question des technologies et du numérique sont pour le moment le fait d'une, entre guillemets, petite communauté très investie. Je ne suis pas certain qu'au niveau de nos concitoyens, tout ça soit aussi développé. Donc Gérard Blanchard, pour revenir à lui, aurait voulu expliquer pourquoi la région a financé à la fois un réseau de chercheurs, un réseau de recherche, mais également a accepté de financer un volet de vulgarisation, de popularisation des technologies et de l'éducation à l'Espace Mendès France. Pour que Poitiers soit un territoire à la fois de réflexion, mais également d'application digne de ce nom. Premier point. Deuxième point, par rapport à ces réflexions, alors on arrive à une période un peu particulière. Je voulais excuser l'absence du président de l'Espace Mendès France, Mario Cotron. Mario qui est à Angoulême aujourd'hui. Mario Cotron qui a par ailleurs une autre casquette, puisqu'il dirige, alors maintenant on appelle ça Institut national des sciences pour l'éducation. Enfin, autrefois, ça s'appelait les écoles normales. Ça a changé trois fois de nom en 10 ans. Parce qu'il y a eu un petit hiatus avec les mouvements sociaux et puis tout un environnement qui fait qu'on aurait dû normalement avoir des élèves professeurs dans cette salle que nous n'aurons pas aujourd'hui. Alors peut-être cet après-midi, il y aura un petit groupe en principe. Bon, bref. Donc pourquoi ? Parce que, effectivement, ces notions d'éducation à l'ère du numérique impactent directement celles et ceux qui sont en présence des apprenants, en sachant que l'inversion des choses provient du fait que la culture numérique est très largement partagée par la jeune génération et que le rapport au numérique n'est pas forcément à l'avantage de tout le monde et en particulier des enseignants. Nombre d'enseignants qui viennent dans cet établissement nous font part de leur désarroi et à quel point ils peuvent parfois être démunis. Je parle plutôt dans les collèges et les lycées. Hein. Les récents témoignages viennent de profs de collèges et de lycées. Ils peuvent être démunis face à des interventions d'apprenants, qu'on appelle des élèves, qui, bien sûr, pour des raisons qu'on comprendra aisément, sont allés chercher sur la toile des éléments qui viennent éventuellement contrecarrer ce que l'enseignant va raconter. C'est soft dans l'ouest de la France, c'est visiblement beaucoup plus difficile dans des régions ou des quartiers où montent en puissance un certain nombre de problématiques. Les récents événements sur Strasbourg, Colmar, avec des oppositions frontales, je parle en l'occurrence de l'évolution de Darwin, dans des classes de lycée, montre à quel point nos enseignants peuvent être démunis. Donc la réflexion d'aujourd'hui, c'est aussi pour diffuser une forme d'information auprès d'une communauté qui en a bien besoin. Voilà. Et puis je voulais vous remercier d'être là. Je voulais saluer la présence de mon ami Christophe Mbouarké, qui est un éminent homme politique brésilien, ministre du président Lula, ministre de l'Éducation, mais tu en parleras cet après-midi peut-être un petit peu sur cette expérience. Mais avant tout intellectuel, écrivain, essayiste, et depuis récemment membre d'une commission éminente au niveau mondial pour réfléchir au futur, avec un X et un S, au futur de l'éducation. Donc, Christophe est en Europe pour présenter un livre, puisque demain après-midi il sera à Oxford pour présenter un livre extrêmement politique, polémique, pourquoi la gauche a permis à la droite de prendre le pouvoir au Brésil. Voilà. Et au cœur de son propos, c'est qu'a-t-on fait de notre éducation, hein, c'est un petit peu ça. Mais ce qui nous intéresse peut-être, c'est la réflexion sur les futurs de l'éducation. On en parlait hier soir ensemble, puisque ce qui se passe en France, les Français se flagellent beaucoup, ce qui se passe en France intéresse beaucoup nos amis d'Amérique du Sud sur les questions de gratuité, sur les questions d'éducation, de technologie fédérale, locale, régionale. Donc toutes ces questions sont devant nous. Donc Christophe reviendra sur ce qu'il a décrit aussi une dizaine d'années dans un livre magnifique sur une problématique qui s'appelle l'éducationnisme, mais tu nous diras ça. Et nous dira peut-être ce qu'il est en train de faire au niveau mondial avec cette commission qui prépare les futurs de l'éducation. Et on évoquait ensemble la question de la gratuité et de l'accès pour tous à l'éducation. Et je pense que c'est quelque chose d'important. Remercier Jean-François Cerisier, vice-président de l'Université de Poitiers, d'être présent. Il est représentant du réseau Canopée aussi, avec lesquels on travaille régulièrement depuis très longtemps, ici à Poitiers, puisque le quartier général est là, mais aussi en territoire. Historiquement, on a toujours travaillé ensemble et je pense que c'est des choses qu'il faut continuer. Alors si je dis ça, simplement, si je parle de territoire, c'est pour passer la main à Emmanuel Porte. Parce que cette maison est honorablement connue pour avoir fait évoluer cette question de la culture scientifique, bien sûr avec une dimension didactique, éducative, mais également a toujours prôné dès le début la dimension d'éducation populaire. La vision de l'éducation populaire de cette maison, qui n'est pas partagée par mes collègues de France et de Navarre, hein, donc voilà, ça m'a valu plein de débats depuis 25 ans et certaines périodes d'ostracisation par des mouvements nationaux, mais on est toujours vivant, donc ce qui prouve qu'on peut tenir ses idées, c'est que la question de l'éducation populaire a été évincée largement des institutions muséales ou muséographiques françaises, mais également européennes. Et nous, on a toujours prôné l'alliance de l'éducation au sens classique du terme avec l'éducation populaire et en particulier en travaillant dans les territoires avec des acteurs qui exercent sur le champ culturel et peut-être plus particulièrement une spécialité pour cette maison d'être présent depuis 25 ans, on en a encore vu la preuve hier, autour du livre, ce qu'on avait avec Héloïse, l'Assemblée générale des librairies indépendantes de la région Nouvelle-Aquitaine, ce qui pour moi est symbolique ou symptomatique de ce vers quoi il faut aller, mais également travailler sur cette éducation populaire avec les acteurs qui sont parfois un peu oubliés, soit dans les quartiers, soit en milieu rural, et de pouvoir contribuer, accompagner ces acteurs à placer des éléments scientifiques et techniques dans leur programmation, dans leurs préoccupations, tout à la fois pour montrer, mais également pour échanger et débattre. Donc cette question d'éducation populaire qui est en pleine mutation, on a travaillé récemment avec la Fédération nationale Léo Lagrange, et j'ai vu à quel point la question des techniques, la question des sciences posait problème dans une configuration à l'ère ou à l'heure du numérique pour faire évoluer ces fédérations. Donc l'éducation populaire est une question que nous on se pose depuis tout le temps, et le fait de pouvoir mettre en présence le monde scientifique au sens large du terme avec ces acteurs sur les territoires nous paraît faire partie des éléments qui sont contributifs d'une façon de revisiter en fait la relation avec les territoires. C'est l'enjeu de demain plus que jamais. Nous, on le prône auprès des acteurs régionaux. Ça ne va pas de soi. Souvent, les territoires sont considérés comme des lieux où on monte des dispositifs, où on vient vendre des prestations, où on vient monter des choses. Pas assez comme des endroits où il y a une richesse dans le cadre d'un échange. Voilà, donc merci à Emmanuel de venir nous porter quelques éléments de réflexion. Pour les questions-réponses, simplement, puisque nous sommes filmés et qu'on va reprendre à certains éléments de cette journée, donc merci si vous posez une question ou vous faites part d'un avis, de dire d'où vous parlez, qui vous êtes. Alors, vous n'êtes pas obligé de lire tout votre CV, hein, c'est juste voilà, qu'on puisse voir après, quand on fera un repiquage de tout ça, quelles sont les contributions. Donc, Emmanuel, je vous laisse la parole.
Je vais prendre ce micro-là, c'est plus pratique. Bonjour à tous et merci pour l'invitation. Donc, moi, effectivement, je m'appelle Emmanuel Porte, je travaille à l'INJEP. Alors, l'INJEP, c'est l'Institut National de la Jeunesse et de l'Éducation Populaire. Donc, pour ceux qui ne connaisseraient pas cette institution, c'est aujourd'hui un service à compétence nationale du ministère de l'Éducation nationale, mais qui a été un établissement rattaché au ministère de la Jeunesse et des Sports pendant assez longtemps. Et nous, on produit des études, des recherches sur la situation des jeunes en France, sur la vie associative et sur l'éducation populaire, entre autres, puis aussi des travaux statistiques. Et donc l'idée de l'intervention d'aujourd'hui qu'on m'avait demandé, c'était de revenir un petit peu sur l'éducation populaire elle-même, déjà, dire, parce que tout le monde n'est pas forcément au même niveau d'information de quoi on parle, quelle en est l'actualité, et puis d'essayer de donner ensuite quelques éléments qui nous amènent vers les questions numériques, en tout cas sur la manière dont nous, on peut les approcher à l'INJEP. Donc l'idée, voilà, c'est de fixer quelques repères et d'ouvrir sur quelques observations. Vous verrez qu'ils posent finalement moins la question des technologies que celle de l'émancipation dans un cadre collectif à travers les enjeux du numérique. Donc l'éducation populaire en France, c'est une notion qui est très ancienne, qu'on entend depuis un moment. En général, on s'accorde, la plupart des historiens s'accordent à dire que ça remonte à Condorcet et à la période de la Révolution française où on affirme que l'instruction ne doit pas abandonner les individus au moment où ils sortent de l'école. Et quand on se penche un petit peu sur cette histoire de l'éducation populaire depuis la Révolution française jusqu'au moins à la moitié du XXe siècle, on voit qu'elle a été alimentée par trois types de courants historiques, politiques, assez différents en France. Un courant républicain qui est le plus connu peut-être, qui a accompagné l'instauration de l'école gratuite, laïque et obligatoire, et qui a proposé aux jeunes et aux enfants des activités éducatives hors des temps scolaires. Un courant qu'on pourrait qualifier plutôt d'ouvrier qui a essayé de regrouper sous diverses orientations politiques des expériences en direction des adultes, je pense aux bourses du travail, aux universités populaires par exemple. Et puis un courant dit plus confessionnel, qui en particulier sous les patronages avait dans un premier temps cherché à garder l'influence de l'Église sur les questions éducatives, mais qui a développé aussi des formes originales d'éducation du peuple, en s'appuyant notamment sur la sociabilité entre jeunes, dont un des exemples historiques les plus connus est le scoutisme, mais ça a irrigué les réflexions sur les questions éducatives de tout un tas de mouvements. Donc ce que je veux dire, c'est que dès le départ, c'est un terme très large qui englobe des pratiques politiques et des orientations éducatives assez vastes, mais sur lequel la plupart des mouvements, des associations, des collectifs se retrouvent quand même sur deux caractéristiques. La première, c'est que bien souvent, c'est des collectifs qui sont basés sur la volonté de favoriser un accès au savoir et à la culture au plus grand nombre, et en particulier aux plus démunis. Et deuxièmement, que c'est des collectifs ou des associations qui ont une volonté de considérer l'éducation de tous comme une condition de l'exercice de la citoyenneté et de la dynamisation de la démocratie. Et c'est sur la base de ce socle commun qu'on peut discuter d'éducation et de la place de l'éducation comme un socle de réflexion sur des projets éducatifs qui ont une portée politique. Alors, j'ai évidemment pas le temps de revenir dans les détails sur toute cette longue histoire, mais simplement, c'était pour vous rappeler qu'à l'origine, en France, et pas seulement en France, mais l'éducation populaire est une réflexion militante née dans le giron associatif, qui a été progressivement, dans la deuxième moitié du XXe siècle, reconnue par l'État, puis par les collectivités, par un processus de professionnalisation à partir des années 60, 70, 80. Et on lui a préféré progressivement à cette notion d'éducation populaire des notions plus spécifiques d'animation, d'animation socioculturelle, de médiation scientifique et technique, d'animation sportive. Et donc, d'une certaine manière, en professionnalisant, on a spécialisé, on a sectorisé, et certains diront on a un peu perdu une partie de la dimension militante globale du projet politique initial. Mais on s'est retrouvé donc accompagné par l'État avec un secteur qui est relativement puissant et qui l'est encore, puisqu'on a aujourd'hui en France les mouvements d'éducation populaire qui sont membres du CNAJEP, qui en est l'instance de représentation nationale, 70 fédérations nationales, la seule ligue de l'enseignement revendique 1 600 000 adhérents. On est sur environ 680 000 personnes qui travaillent dans les associations d'éducation populaire. Et on est sur des dynamiques économiques qui relèvent de 1,4% du PIB cumulé, c'est-à-dire presque 50% de l'activité associative qui relèverait de ce champ-là. C'est des statistiques nationales consolidées depuis un certain nombre d'années. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ça montre que l'éducation populaire aujourd'hui, c'est un poids économique important. Mais c'est aussi un acteur incontournable dans un certain nombre de politiques publiques, et notamment les politiques de jeunesse et du temps libre, avec très souvent les collectivités locales qui sont les premiers financeurs, mais les associations d'éducation populaire elles-mêmes qui sont les premiers employeurs. Et donc la place des territoires extrêmement, extrêmement forte dans le développement de ces activités et des réflexions autour de la mutation de ces activités. Donc évidemment, les structures de ce secteur, si certains d'entre vous évidemment les connaissent déjà, mais c'est la Ligue de l'enseignement, les Franca, les CMEA, les Haut-Lagrange, les familles rurales. C'est aussi un certain nombre d'espaces comme les MJC, les centres sociaux, les foyers ruraux. Donc vous comprenez qu'on a un secteur qui est à la fois bien structuré aujourd'hui, professionnalisé, important, mais que c'est une dynamique, celle de l'animation socioculturelle au sens large, qui ne recoupe pas à 100% la variété de ce qu'a été l'éducation populaire historique. Et c'est là qu'il me semble que c'est intéressant, parce qu'il y a un certain nombre de gens qui s'accordent à dire, et de travaux de recherche qui s'accordent à dire aujourd'hui, qu'on est rentré depuis les années 90 dans une nouvelle phase qui serait la phase d'un renouveau de l'éducation populaire, c'est-à-dire qui réélargit et qui questionne l'animation socioculturelle des années 70-80 dans un contexte plus général de mutation du monde associatif. Alors ça, ça s'observe, c'est-à-dire qu'on a depuis une vingtaine d'années un nombre de nouvelles structures qui se revendiquent de l'éducation populaire qui ont émergé dans des secteurs qui n'étaient pas uniquement les secteurs dédiés aux jeunes ou à la culture, par exemple, qui étaient les terreaux historiques. Je pense à des associations comme ATTAC, par exemple, sur les questions économiques, des associations comme La Fève en direction des étudiants, les différentes scopes d'éducation populaire, dont la plus connue était celle qui avait été créée par... Le pavé par Franck Lepage, des structures plus récentes de la culture scientifique et technique, on va dire, comme les petits débrouillards. Mais c'est aussi le cas de réseaux plus anciens qui ne s'étaient pas forcément toujours revendiqués comme relevant de l'éducation populaire, mais qui le font aujourd'hui plus volontiers, des structures comme ATD Carmonde, par exemple. Et c'est le cas aussi, la référence à l'éducation populaire réémerge beaucoup dans des mobilisations sociales plus ponctuelles. Il n'y a quasiment plus une mobilisation étudiante sans qu'on crée une université populaire ou un temps d'éducation populaire pendant la mobilisation. Quand il y a eu Nuit Debout, vous aviez une commission éducation populaire, c'est la seule qui continue encore à fonctionner. C'est une éducation populaire qui se revendique d'une réflexion à la jonction avec toutes les réflexions qu'il y a actuellement sur les problématiques d'émancipation, c'est-à-dire les discussions sur le pouvoir d'agir ou les discussions sur l'empowerment dans les pays anglo-saxons, les renouveaux des pratiques culturelles et évidemment les pratiques numériques. Alors ça, c'est un foisonnement qui me semble intéressant parce que ça vient percuter à la fois les mouvements anciens que j'évoquais avant, qui se posent la question de l'intégration de ces nouvelles pratiques et de ces nouveaux acteurs dans leur réseau, mais qui donnent aussi lieu donc à l'émergence de nouveaux acteurs qui ne sont pas forcément fédérés avec des modalités classiques d'organisation, enfin classiques au sens éprouvées et anciennes. Et c'est un phénomène, donc, ce renouveau de l'éducation populaire, qui est aussi confirmé quand on regarde ce qui se passe du côté de la recherche, parce qu'on a de plus en plus de travaux, notamment en sciences sociales, sur l'éducation populaire. Des travaux historiques, je pense à ceux de Laurent Besse, de Jean-Claude Richez ou de Frédéric Châtaignier, par exemple, qui posent un peu à nouveau frais la question de l'éducation populaire, y compris de son histoire, en interrogeant moins l'histoire des structures ou des dispositifs que celle des mécanismes collectifs qui ont permis de construire l'éducation populaire. Donc, qu'est-ce qu'on met derrière la notion, dans quel territoire ça s'est développé, quelles sont les spécificités territoriales, quelles sont les dimensions internationales de cette discussion sur l'éducation populaire, puisqu'évidemment, il faut le rappeler quand même, le centre mondial de l'éducation populaire, ça a été, je pense, ça l'est toujours en grande partie, c'est l'Amérique latine. Ça décentre aussi la discussion par rapport à l'éducation populaire française. La discussion aussi sur les trajectoires des militants, comment on passe de militants à salariés, comment de salariés on peut se reposer des questions militantes. Enfin, il y a des allers-retours dans les trajectoires des gens qui sont mal connus et qui sont intéressantes à traiter aujourd'hui. Et puis, on reparle d'éducation populaire dans des travaux qui ne sont pas spécifiquement là-dessus, mais qui sont sur des travaux sur l'engagement, sur les rythmes scolaires, sur le service civique, sur toute une série de dispositifs publics aujourd'hui qui amènent les chercheurs qui travaillent là-dessus, en tout cas, à se reposer la question. Donc, si je vous dis tout ça, c'est parce que c'est, me semble-t-il, pour aller hyper vite, la manière dont a évolué l'éducation populaire jusqu'à aujourd'hui. Et donc, on est aujourd'hui dans une éducation populaire qui est intégrée dans des mutations plus générales du mouvement associatif en France, ou qui est percutée par une transformation des rapports à la connaissance, au travail, au territoire. C'est l'émergence, évidemment, des nouveaux outils de sociabilité, de partage de connaissances, que sont les réseaux sociaux, le peer-to-peer, les logiciels libres. C'est la revalorisation des problématiques locales, la consommation collaborative, le développement local, les enjeux sur les mobilités, les enjeux environnementaux, évidemment. C'est l'émergence de nouveaux lieux d'exercice de la citoyenneté, c'est les tiers-lieux, les espaces de fabrication, les Fab Labs. Les mutations, de manière générale, du monde associatif, la redistribution des frontières aussi dans les grands réseaux entre salariat et bénévolat, les reconfigurations territoriales des politiques publiques qui ont aussi beaucoup d'impact. Et donc, partant de là, moi, la conviction que je me suis faite progressivement sur ces problématiques d'éducation populaire, c'est qu'en fait, c'est intéressant aussi de regarder les gens qui pratiquent de l'éducation populaire au quotidien et qui ne s'en réclament pas forcément. Parce qu'en fait, il y a un certain nombre de gens qui cherchent, dans ces mutations, ces enjeux de mutation du monde associatif, des espaces de production et de diffusion des savoirs, des nouvelles modalités de partage, des nouvelles formes de formation par l'action collective, de construction de l'autonomie. Et tout ça, ça participe d'une discussion sur un éventuel renouveau de l'éducation populaire. Alors une fois qu'on a dit ça, qu'il y a un renouveau de l'éducation populaire, qu'on y a intégré, pour être complet, ceux qui expérimentent des pratiques quand sont proches mais qui ne s'en revendiquent pas forcément explicitement, on n'a pas forcément caractérisé le phénomène ou donné des exemples, donc je voudrais essayer de le faire rapidement en glissant un peu plus vers le numérique et l'éducation populaire, mais en tout cas plutôt du point de vue, vous l'avez compris, des professionnels et de leurs pratiques. Peut-être qu'on parlera un peu plus des pratiques des jeunes un peu plus tard dans la journée. Si on prend le numérique, par exemple, aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où, en fait, on a des acteurs de l'éducation populaire plus anciens que j'évoquais tout à l'heure, la Ligue de l'enseignement, le CNAGEP, les CMEA, les FRANCA, qui cherchent à se positionner sur ces questions-là, à intervenir et à intégrer les nouvelles problématiques à la fois techniques et éducatives que ça pose. Mais on a aussi des acteurs du numérique qui se réclament de l'éducation populaire sans avoir été initialement structurés dans ces réseaux-là. Je pense à des acteurs comme Framasoft, par exemple, sur les logiciels libres, qui revendiquent faire de l'éducation populaire au libre sans être complètement un produit de ces réseaux-là. Donc c'est intéressant parce que ça permet de regarder la manière dont des pratiques professionnelles et militantes viennent s'alimenter l'une l'autre pour définir les contours, disons, d'une relation entre éducation populaire et numérique. Et ça pose des questions, du coup, en termes d'émancipation, de rapport à la citoyenneté, à la culture, à la connaissance. Mais tout ça se fait pas sur un terreau complètement nouveau et complètement vierge, puisque la préoccupation pour les technologies dans l'éducation populaire, c'est pas une nouveauté. Si on prend par exemple l'informatique, très tôt il y a eu dans les structures d'éducation populaire et de l'animation une préoccupation pour le développement de l'informatique dès les années 80. Il y a plein de publications, de choses qui se réfléchissent autour de ça. Mais en tout cas, historiquement, ça avait alimenté un petit peu deux pans, qui était le pan de la culture scientifique et technique, qui était beaucoup tourné vers les enjeux de compréhension des phénomènes techniques, des processus de fabrication. On déconstruit une radio, on déconstruit le processus de production, par exemple, d'un film au moment où arrive la vidéo, etc. On travaille avec les objets techniques. Mais on avait aussi tout un autre pan de l'éducation populaire qui s'est beaucoup concentré sur l'éducation aux médias, à mesure qu'il y avait radio, télévision, vidéo, numérique qui s'est développé. Et alors moi, ce que je trouve intéressant aujourd'hui, c'est que dans les pratiques numériques contemporaines, notamment dans les nouveaux lieux que sont les tiers-lieux, les Fab Labs, ou dans les nouveaux métiers que sont les métiers de médiateur numérique ou de concierge dans les tiers-lieux, etc., on a une hybridation progressive de ces deux cultures. On essaie de tenir ensemble une réflexion critique sur l'outil de technique et en même temps une meilleure compréhension de son fonctionnement intrinsèque pour essayer de s'équiper comme citoyen. Donc on est dans une situation où on a une imprégnation progressive du numérique dans l'éducation populaire, ce qui ne veut pas dire évidemment que toute pratique numérique, quand bien même elles sont collectives, participe de l'éducation populaire, et ce qui ne veut pas dire non plus que toute pratique d'éducation populaire usant du numérique ou toute pratique d'animation usant du numérique constitue systématiquement une contribution à un projet d'émancipation ou à un projet éducatif, quoi. Il faut regarder dans les détails ce qui se passe dans ce domaine-là, mais c'est en tout cas un phénomène intéressant. Alors si je prends des exemples peut-être un peu plus pratiques, je crois que je suis à peu près dans les temps, je voudrais en prendre en fait deux. Si on regarde par exemple ce que produit la création par exemple d'un Fab Lab dans un centre social, il y en a plusieurs qui se sont ouverts un petit peu partout en France. Très souvent, ça amène, par exemple, à produire pour les animateurs professionnels qui travaillent dans ces espaces-là, à produire de l'intergénérationnel. C'est-à-dire que très souvent, l'atelier numérique, quand on avait des ateliers numériques qui étaient de la découverte de logiciels d'un côté, dans lequel on avait plutôt des adultes, et puis des ateliers jeux vidéo, dans lequel on avait plutôt des enfants, si on passe sur un modèle fabrication et qu'on va vers la fabrique d'un objet ou vers la résolution d'un problème en commun, on se retrouve à beaucoup plus faire travailler ensemble les adultes et les enfants sur un projet de création d'une pièce, où on a des adultes qui arrivent avec des compétences de soudure apprises dans un cadre, par exemple, professionnel ancien, et des jeunes qui peuvent être plus à l'aise avec l'utilisation de l'imprimante 3D. Mais donc on a des activités intergénérationnelles plus fortes qui se créent et qui posent des questions aux pratiques et aux outils, aux dispositifs qu'avaient l'habitude de mettre en place les animateurs. Et puis un autre exemple, c'est prendre un animateur que j'ai vu fonctionner comme ça dans une EMJC, qu'un groupe de jeunes qui voulaient avoir une activité autour du numérique, et ils sont partis de quelle était leur situation concrète, qui était que la plupart d'entre eux, c'était des adolescents, avaient un smartphone dans la poche. Et donc il leur a proposé d'essayer de prendre des photos de la faune, de la flore, des bâtiments qui étaient entre chez eux et le lieu de la MJC. Une fois revenu dans la MJC, on a pris ces photos et puis on découvre, il leur fait découvrir que ces photos, elles sont à la fois horodatées, on sait quand on les a pris, elles sont géopositionnées et donc on peut les utiliser pour essayer de les cartographier. Donc là, on va sur OpenStreetMap, on récupère des données, on positionne les photos sur une carte, on commence à les visualiser, donc on réfléchit aussi au territoire de la MJC hors les murs en quelque sorte, puisqu'on visualise d'où viennent chacun des jeunes sur la carte. Et une fois qu'ils ont commencé à faire ça, les jeunes ont proposé, parce qu'ils se rendaient compte en même temps que les photos et informations des pages Wikipédia, par exemple, de la commune, étaient très mal alimentées. Et donc, ils se mettent à alimenter ces pages-là. Bon, dans un processus de ce type-là, moi, ce que je trouve très intéressant, c'est que l'animateur, progressivement, il est passé de quelqu'un qui anime un temps situé dans un lieu qui est la MJC, à une situation où il anime un processus de coproduction de connaissances sur le territoire dont les jeunes sont des acteurs. C'est-à-dire qu'ils deviennent coproducteurs avec l'animateur d'une connaissance nouvelle sur le territoire qui est capitalisée grâce à des outils qui sont des outils ouverts. Donc ça, c'est intéressant quand on tire un peu les fils et qu'on se dit mais qu'est-ce que ça pose comme question, par exemple, aux animateurs dans leur formation ? Comment on pourrait essayer d'en tenir compte dans la formation aujourd'hui des animateurs au numérique ? Donc j'ai pris ces deux exemples parce que moi, il me semble que du coup, ça interroge sur ce que sont aujourd'hui les référentiels de l'émancipation pour les acteurs de l'éducation populaire. Pendant très longtemps, il y avait le gros de la discussion entre les réseaux, les fédérations, autour des pratiques d'éducation populaire, c'était des débats pédagogiques. On discutait de la référence pédagogique, des grands auteurs, et il y avait des débats vraiment très importants là-dessus. Aujourd'hui, force est de constater qu'il y a beaucoup, beaucoup moins de débats sur les grands auteurs et les pédagogies dans les mouvements d'éducation populaire. Mais par contre, je trouve qu'il y a de plus en plus de débats sur d'autres référentiels de l'émancipation qui touchent au numérique, que sont d'une part la culture du libre et des logiciels libres, qui met en débat les réseaux quand ils s'emparent de cette question-là, parce que ça pose la question des modalités de coopération qui structurent un acte de production, c'est-à-dire faire ensemble plutôt que consommer. Ça pose des questions en termes de partage et de diffusion de connaissances, qui devient plus un objectif du travail, mais un principe d'organisation du travail en commun. Ça pose des questions sur la contribution, sur comment on met les gens en situation de contribuer à un espace collectif. Ça pose la question de l'horizontalité dans les relations. Donc ça, c'est un truc très important. Et puis, il y a un deuxième référentiel qui revient quand même régulièrement et qui touche aussi aux problématiques numériques et écologiques, qui est la discussion autour des communs de la connaissance, avec les discussions autour des enjeux de propriété privée de la culture et de remise en cause de ces questions-là, des modalités collectives aussi de régulation de l'usage de l'accès à des espaces ou à des biens culturels, et puis la place des territoires et de la gouvernance démocratique dans ces dynamiques-là. Donc moi, ça me semblait intéressant parce que ça incite à considérer finalement le rapport entre l'éducation populaire et le numérique, pas seulement comme une catégorie nouvelle de l'activité du secteur de l'animation, mais comme une donnée plutôt nouvelle pour essayer de repenser les projets éducatifs et finalement pour voir comment accompagner à une contribution, à une action collective de formation du citoyen, les publics qu'on accueille dans des espaces de l'éducation populaire aujourd'hui. Donc en tant qu'animateur, en tant qu'association, aujourd'hui, faire le choix par exemple des logiciels libres, c'est aussi remettre au travail le projet éducatif de l'association en articulant une réflexion sur les outils et une réflexion sur des horizons d'émancipation ou de participation du citoyen qui sont en quelque sorte embarqués dans ces outils. Donc voilà, donc si j'ai fait ce détour un peu par l'histoire, les évolutions récentes, et pour essayer d'ouvrir un peu sur le numérique, c'est qu'il me semblait qu'il y a un enjeu éducatif important dans le champ du numérique aujourd'hui, et qui renvoie à ce qu'on évoque depuis des années sous la formule de littératie numérique. Hein. C'est-à-dire, c'est pas seulement penser les technologies, les outils, voir ce qu'elles permettent, mais c'est aussi penser les modalités d'appropriation par les individus de ces outils, leurs usages collectifs, mais aussi la portée politique des choix technologiques. Et je pense que c'est à cette condition-là qu'on fait du numérique pas seulement une technique, mais un éventuel levier d'une réflexion globale en termes d'éducation populaire. Et je me disais que ça pouvait être une ouverture intéressante pour nous aujourd'hui, même si on parlera peut-être beaucoup plus des outils après dans le reste de la journée. Voilà, j'espère que j'étais clair. Merci.
Merci. Alors, on a prévu une intervention de Marielle Stinès à l'instant. Moi, j'aimerais bien revenir sur ce que vous venez de dire, là. L'évolution depuis Condorcet, faut pas oublier l'abbé Grégoire, parce que le débat entre Condorcet et l'abbé Grégoire marque encore, tout le monde l'a oublié, quelque chose dans la transmission des connaissances. Mais indépendamment de ça, il y a une chose que je n'ai pas entendue dans votre exposé et qui me pose problème. C'est cette évolution qui est commune à beaucoup de secteurs, qui est grosso modo, on a un mouvement qui est surplombé par un certain nombre d'éléments qui relèvent d'un cadre idéologique ou de cadres idéologiques plus multiples, à une situation où depuis une petite génération, 20-25 ans, finalement, il y a une profusion d'expériences, de façon de faire, de façon de penser, une profusion qui prolifère sur les territoires. Et la question que je me posais, c'est la question des valeurs. Alors je vais mettre les pieds dans le plat. Depuis un certain nombre d'années, les tenants du Front National et du Rassemblement National maintenant revendiquent le fait de faire de l'éducation populaire. Vous lisez ce qui a été écrit il y a quelques années dans un bulletin, dans un tract municipal ici à Poitiers, et ce n'est pas un parti qui est extrêmement virulent dans l'ouest de la France. Il y a une ambiguïté. Une ambiguïté, et moi je dis ici ce que j'ai dit au National depuis déjà une vingtaine d'années, en particulier en 2008 au Sénat à Paris, c'est que cette dimension épistémologique, historique que vous avez rappelée et qui me paraît essentielle, on a l'impression qu'elle n'est plus, elle est connue, mais plus portée dans les discours. Et moi je rejoins cette interrogation de beaucoup sur la question du mot éducation populaire dans un rapport à des valeurs. Alors je voulais avoir un peu votre sentiment là-dessus, parce qu'on va parler de beaucoup de choses un peu fonctionnelles, un peu instrumentales dans la journée, parce que c'est indispensable. Mais j'aimerais bien que vous nous éclairiez là-dessus. Parler sans crainte.
Ah non, je parle sans crainte. Mais non, alors ce à quoi ça me fait réagir, c'est que ce que j'évoquais tout à l'heure sur les discussions qu'il y a pu y avoir sur le processus de professionnalisation de l'éducation populaire vers l'animation, c'est une partie des critiques qui ont été abordées à cette époque, relevées de ça, c'est-à-dire est-ce qu'on peut résumer l'éducation populaire à une question de technique d'animation ? Probablement pas, puisque quand on résume l'éducation populaire à des problématiques de technique d'animation, on peut considérer que peu importe le projet politique que porte ces techniques d'animation, ce ne sont que des techniques. Voilà. Et je pense d'ailleurs que c'est très intéressant aussi de regarder, sans forcément aller chercher du côté politique comme vous l'avez fait, mais même du côté économique, la diffusion de techniques développées dans le giron de l'éducation populaire dans le monde de l'entreprise, par contre, par exemple, est très fort, sans pour autant que ça ait été accompagné d'une remise en cause des fondements organisationnels de ces structures. Donc moi, je pense avec vous, je comprends, que l'éducation populaire aujourd'hui a un avenir si elle repolitise un petit peu son objectif. C'est-à-dire qu'il y a éducation populaire quand il y a convergence entre un projet politique éducatif et un projet politique d'émancipation du citoyen et le développement de techniques originales qui ont des portées pédagogiques nouvelles, inclusives. Voilà. Donc probablement qu'il faut arriver à rediscuter un petit peu sérieusement les termes éducation et les termes populaire. Parce que de quoi on parle quand on utilise ces deux mots aujourd'hui dans l'éducation populaire, ça serait intéressant de faire l'exercice. Je t'ai déjà eu l'occasion de le faire avec quelques-unes des associations ou des fédérations, même dans le cadre de congrès. Faites un sondage, qu'est-ce que vous mettez derrière éducation, qu'est-ce que vous mettez derrière populaire, et vous voyez la diversité de ce qu'il peut y avoir. Ça montre qu'il n'y a plus d'évidence politique ou associative sur ce qu'est le projet de l'éducation populaire de manière globale et homogène. Il existe encore des structures, mais voilà.
Est-ce qu'il y a une réaction à ça avant qu'on passe la parole à Marielle là-dessus ? Non ?
C'est vrai, mais... Ce que vous venez de dire est très vrai, mais ça interroge aussi la dimension démocratique du fonctionnement des fédérations et des structures d'éducation populaire qui est mise à mal aujourd'hui aussi quand même. Donc, et si la dimension émancipatrice, elle reste aussi très théorique. Et aujourd'hui, je crois qu'il y a beaucoup à faire justement pour obtenir un réel fonctionnement, enfin retrouver un réel fonctionnement démocratique dans les associations, dans les fédérations, parce que c'est très mis à mal au regard du type de mode de financement public aujourd'hui, les appels à projets, les injonctions qui sont données sur des thématiques à traiter. On le voit par exemple dans les quartiers. Dans les quartiers aujourd'hui, toute l'action est polarisée par le social. Et quand on parle du numérique, évidemment, les animateurs voudraient faire du logiciel libre, mais en fait, ils passent leur temps à aider les personnes à remplir leurs feuilles d'impôt ou les dossiers CAF. Et leur structure les incite aussi à faire ça, parce que c'est là où sont les financements. Et donc, les conseils d'administration avalisent ça, plus ou moins, etc. Donc, il y a un vrai problème tout de même de fonctionnement démocratique des structures.
Réagir rapidement. Moi, je suis complètement d'accord avec vous. Je pense que la grosse question qui se pose aux fédérations nationales aujourd'hui, c'est la question du renouvellement de la forme fédérative. La forme fédérative, elle avait aussi une utilité, mais c'est valable aussi dans le syndicalisme, c'est valable dans plein d'autres secteurs. Elle avait aussi pour effet de pouvoir se mettre à la hauteur, en termes de forme de structuration, de l'interlocuteur principal du développement des activités, qui était l'État. Aujourd'hui, avec les différentes phases de décentralisation, il y a de plus en plus de politiques, et en particulier sur les politiques de jeunesse, qui se déterminent aujourd'hui à une échelle régionale. C'est-à-dire que, du coup, il y a un décalage entre la structuration des fédérations et la manière dont se développent aujourd'hui les politiques publiques. Ça ne veut pas dire que l'État n'a plus du tout de rôle à jouer, mais il ne joue plus le même rôle, et les acteurs régionaux, et départementaux et intercommunaux jouent des rôles aussi qui sont en train de monter en force et qui ne sont pas d'ailleurs pensés comme un tout, qui fait qu'on se retrouve avec des initiatives qui peuvent être très soutenues dans un territoire et pas dans d'autres. Donc ça pose après d'autres questions politiques d'équilibre entre les territoires. Mais en tout cas, il y a un vrai sujet sur comment faire vivre des espaces démocratiques d'éducation populaire qui soient... qui se substitue pas forcément aux fédérations, mais qui les complète à un autre niveau de structuration. Et c'est pour ça que j'ai évoqué par rapport au numérique des initiatives de discussion autour des tiers-lieux ou des choses comme ça, puisque ce qui est intéressant, c'est pas juste le fait qu'on a une imprimante 3D qui est partagée par quatre associations, mais c'est qu'on détermine ensemble, collectivement aussi, des modalités de gouvernance de ce lieu. Et que donc on rétablit à l'échelle micro-locale une forme d'organisation qui échappe aux tuyaux, j'allais dire parfois, que sont les fédérations dans leur structuration locale, régionale, nationale.
Christophe, je vais profiter lâchement de ta présence. Au Brésil, y a-t-il des fédérations nationales, c'est-à-dire au niveau de l'ensemble du pays, sur tout ce qui est éducation populaire, c'est-à-dire éducation non académique, ou est-ce que c'est régionalisé, c'est dans les États ? Parce que la France, qui est centralisatrice, historiquement, a facilement intégré ces notions de fédération depuis la fin du 19e siècle. Et par rapport à ça, justement, la dimension d'éducation populaire ou non académique, comme vous dites parfois.
Oui. D'abord, bonjour à chacun et chacune. Au Brésil, l'éducation populaire, c'est populaire. Pas de rapport avec l'État. Ce sont des groupes d'organisations non gouvernementales qui travaillent le sujet. Et dans certaines régions, ça marche, dans d'autres, ça ne marche pas. Mais il n'y a pas, que je me rappelle, un mouvement national d'éducation populaire. Et je trouve qu'on n'a pas du tout encore trouvé un rôle important, comme je vois que vous avez ici, et même une conception, une philosophie. On a eu, il y a quelques ans, dans le temps de Paulo Freire, dans le temps du gouvernement de gauche, j'ai dit avant 64, on avait beaucoup, quelques-unes des expériences sous l'influence du gouvernement, surtout gouvernement local. Mais c'est fini avec ce qu'on appelle la modernité. Et je crois qu'il n'y a rien plus moderne que l'éducation populaire. Moderne dans le sens d'instrument de la technologie d'aujourd'hui. Je crois que, comme vous appelez en France, le numéral, le digital, qu'on appelle généralement, le monde nouveau de la digitalisation, ça prenne pour l'éducation populaire un défi et une possibilité. Nous pouvons avoir une mémoire presque infinie. Nous pouvons avoir un dialogue en masse. Le dialogue, ce n'est pas entre 2, 3, 4 ou 5, mais avec des millions dans le 200. Nous pouvons avoir aussi, chaque sujet peut être étudié d'une façon plus approfondie. Alors, je crois que vous êtes dans la direction correcte de savoir comment les numériques, la société digitale peut travailler, faire un mariage avec l'éducation populaire. Je crois qu'au futur, toute l'éducation va être populaire parce que l'école sera partout. L'école sera une dans l'espace, dans on appelle la nouvelle, c'est-à-dire, comme disent les gens, le cloud. L'école sera dans le cloud. Alors, j'aimais bien votre speech, votre
exposé.
Exposé. J'aimais bien votre exposé. Mais en réponse à Didier, je trouve qu'au Brésil, on a laissé à côté l'éducation populaire. On doit amener des efforts plus forts vis-à-vis de faire une éducation populaire plus forte. Et on peut très bien profiter d'expériences comme la vôtre.
Merci, merci, merci. Bon, on va laisser Marielle monter à la tribune. Donc là, Emmanuel nous a ouvert la voie pour préciser. Je trouvais que la question qui était posée, c'est à quoi bon une éducation au numérique ? Il y a un côté...
Aquaboniste.
Éventuellement, oui. Donc vous allez nous expliquer ça.
Ouais,
donc, en rappelant aussi ce qu'est une DRDJSCS, hein, direction régionale qui existe toujours, j'imagine, même avec la fusion des régions. Voilà. Marielle Stinès.
Bonjour à tous. Donc effectivement, moi, je suis actuellement à la DRAC de Normandie, en fait, la Direction régionale des affaires culturelles de Normandie. mais je témoigne ici vraiment de l'action qui a été menée entre 2006 et 2017 sur la question de l'éducation au numérique. Et donc j'ai beaucoup de plaisir à être ici, merci pour cette invitation, puisque dans cet espace, pas spécialement cette salle-là, mais dans cet espace de Mendès France, on a mené dans la mouvance du collectif EducPop 2.0, qu'on avait appelé EducPop 2.0, puis EducPop NUM, un certain nombre de journées. Dès 2007, les jeux vidéo rendent-ils accro, qui avait été menée ici par Mendès et Rurard. Une deuxième journée sur les croisements éducation populaire et numérique en 2008 avec la Fédération régionale des MJC. Et puis en 2015, une journée d'initiation aux Open Badge. Il y en a eu depuis plusieurs, mais c'est vrai qu'avec le CRAJEP et la Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, on avait mené cette journée d'initiation pour faire connaître un petit peu les Open Badge. Alors, Héloïse m'avait demandé initialement d'intervenir sur la question d'un collectif d'acteurs, un collectif régional d'acteurs qu'on avait initié en Poitou-Charentes, puis en Nouvelle-Aquitaine, et qui s'était donné pour but de renforcer la visibilité d'une éducation au numérique se revendiquant de l'éducation populaire, et qui a permis de partager une politique entre l'État et les associations d'éducation populaire dans ce domaine-là. Associations d'éducation populaire et associations culturelles scientifiques et techniques, ce qui est très important parce que sans cet appui sur la culture scientifique et technique, je pense qu'on n'aurait jamais réussi à rien faire. Alors, plutôt que de reprendre le récit qui était un peu aride de cette histoire-là que j'ai raconté dans les cahiers de l'action de l'INJEP, j'ai proposé à Héloïse d'interroger un peu la question des enjeux de ce que serait une éducation populaire au numérique et de présenter ce que tout le travail qu'on a mené pendant ces 15 ans m'a permis, moi, de formaliser lors de la dernière année que j'ai passée à Jeunesse et Sport en Normandie. Alors, pour rappel, l'action du collectif reposait sur deux postulats. Les affinités de l'éducation populaire avec les usages rendus possibles par Internet et notamment le web. Co-construction des savoirs, information alternative, expression et création individuelle et collective, mais aussi formes diverses de réappropriation de la culture de masse, pratiquant en amateur, esquisses de contre-pouvoir, auto-organisation, formes d'économie alternative, intelligence collective, particulièrement illustrée par le développement du logiciel libre. Alors, je conçois qu'aujourd'hui, ça peut paraître un peu utopique. En 15 ans, on est passé d'usages d'Internet qui se déroulaient quasiment exclusivement sur les ordinateurs à des usages majoritairement mobiles, du temps des pseudos, ce temps où sur Internet, personne ne savait que tu étais un chien, disait une vieille légende oubliée, d'une certaine liberté d'usage du web malgré des fonctionnalités restreintes. Le premier blog que j'ai ouvert, on ne pouvait pas mettre de photos, pas de vidéos, etc., juste du texte. Et les Français étaient les premiers créateurs de blogs dans l'Europe. Donc de la naissance du web, de cette liberté au pillage et au traçage des données personnelles, de la naissance du web 2.0 qu'on a quand même vu émerger sous nos yeux, donc web participatif à des réseaux hyper standardisés, d'expériences originales d'économie collaborative au monopole des GAFAM et à l'ubérisation du travail, des contre-pouvoirs de l'information alternative au fléau des fake news et aux théories du complot, du temps gagné par la possibilité de faire des démarches en ligne à la dématérialisation forcenée des démarches administratives. Donc l'époque invite plus à la dystopie qu'à l'utopie. À ce sujet, d'ailleurs, j'ai vu une adaptation théâtrale très audacieuse des Furtifs de Damasio par un metteur en scène qui s'appelle Frédéric Delias et qui donne également lieu au développement d'une application que je vous recommande chaleureusement. Voilà, donc dystopie plus qu'utopie, ça semble un peu évident, mais je pense qu'il est important de ne pas jeter trop vite le bébé avec l'eau du bain. La plupart des premières opportunités du web continuent d'exister, même si on en a maintenant un usage si transparent qu'on fait comme si ça avait toujours existé et que ça existerait toujours. Or, il y a encore beaucoup de combats à mener pour défendre la neutralité, la liberté et l'égalité des réseaux, qui n'est pas acquise pour toujours du tout. Les communs de la connaissance, comme en parlait Emmanuel tout à l'heure. L'utilisation citoyenne des données, comme elle a pu se faire dans les infolabs, pour dégoogliser le web, comme se propose de le faire Framasoft. Donc, en fait, on peut toujours professer un pessimisme de l'intelligence, mais un optimisme de l'action, pour citer Gramsci. Et donc, notre deuxième postulat, en fait, par rapport à la question du numérique, c'était une éducation au numérique qui respecte les pratiques des jeunes et qui s'appuie sur les pratiques des jeunes. L'idée, c'était de cesser de stigmatiser en permanence les pratiques des jeunes, la plupart du temps sans les connaître. Et ça a souvent été d'ailleurs un des seuls axes de réflexion par lequel la communauté éducative, parents, professeurs, animateurs, démunis par la multiplication de ce qu'on appelle les écrans, j'en reparlerai dans un instant, déstabilisés par les nouveaux rapports des jeunes au savoir ou au loisir, a pu prendre en compte la question de la révolution numérique. Et donc la dernière action qu'on a menée avec le collectif EducPopNum, avec l'accompagnement de l'INJEP, c'est une enquête sur les pratiques numériques des jeunes, qui a d'ailleurs été une très belle aventure d'éducation populaire, parce qu'elle a constitué pour tous une sorte de formation-action, à laquelle chacun des acteurs a contribué en partageant son temps, ses réseaux, ses compétences, etc. Et l'idée, c'était de s'intéresser aux usages réels des jeunes, ce qu'ils font avec le numérique, plutôt qu'aux supposés effets du numérique sur eux, ce que ça leur fait, qui est toujours un peu sujet à caution, lié à la psychologie individuelle, au capital culturel, etc. Et on a beaucoup invité de chercheurs dont les travaux nous ont permis d'être au plus près de la réalité de ces pratiques. Alors, il y a eu toutes les réflexions d'Agnès Pécolo sur les liens générationnels entre les enfants et les adultes, les travaux de Laurent Salard qui sont toujours à la pointe de ce qui peut se faire en termes de pratiques numériques. Mais alors, un débat traversé et agité le collectif depuis plusieurs années. Donc, moi, j'étais tenante vraiment de dire qu'il se passait des choses intéressantes dans les pratiques numériques des jeunes. J'avais trois enfants nés entre 1995 et 2003, donc j'ai des pile poil dans la bonne tranche éducative. Et je disais, mais c'est super ce qu'ils font. Il faut quitter la surface des usages pour vraiment s'intéresser à ce qui se passe pour eux dans cette histoire-là. Et en face, la position adverse, c'était un peu, oui, mais ça, c'est tes jeunes, parce que toi, tu es d'une catégorie socio-professionnelle, avec un certain capital culturel. Mais moi, les jeunes que je rencontre dans la campagne de Poitiers, ils n'ont pas ces usages-là. Et donc, on s'est dit, ces pratiques qui nous ont été présentées par ces chercheurs qui venaient témoigner d'elles, étaient-elles celles de tous les jeunes ou des plus privilégiés d'entre eux? Quelle était la réalité des pratiques des jeunes qui nous entouraient? Étaient-elles influencées par le territoire d'origine des jeunes, milieu urbain, milieu rural, zone rurale désertée, quartier en politique de la ville? Et donc, l'idée, c'était vraiment d'aller au-delà de la surface des écrans. Concept qui commençait à fleurir et dont l'utilisation massive me laisse toujours un peu pantoise. Je ne vois pas comment on peut parler d'éducation aux écrans. Alors, écran est un mot qui a eu un succès phénoménal parce qu'il permet d'évoquer à la fois les tablettes, les téléphones, les ordinateurs, la télévision deuxième génération. Mais j'ai beaucoup de mal parce que je trouve qu'il fait complètement écran à la question des usages. Et je vois pas comment on peut parler de dire que les jeunes consomment des écrans ou qu'ils fréquentent des écrans. Et donc, pour illustrer un peu mon désarroi, j'utilise une autre métaphore en disant, c'est un peu comme si pour l'auto-école, on disait qu'on allait éduquer les gens au pare-brise. Et évidemment, on apprend à conduire pour voyager, pour être autonome, pour se déplacer, etc. Et ce qu'on nous met en permanence devant le nez, c'est cette question des écrans. Donc j'ai choisi la photo la plus représentative de ce qui me semblait être... l'impasse de ce concept qui fait vraiment beaucoup, beaucoup, qui est très, très utilisé. Et je trouve ça assez méprisant pour les pratiques des jeunes qui ont des usages qui vont bien au-delà de cette surface. Voilà, alors la plupart des enquêtes quantitatives qui sont faites sur les pratiques des jeunes détaillent le temps passé devant les écrans, donc, et les plateformes les plus couramment fréquentées par tranche d'âge, et proposent une typologie d'activités qui sont celles-ci, jouer, écouter de la musique, regarder des vidéos, qui ne nous semblaient pas du tout prendre en compte l'interactivité propre au Web 2.0, la conversation, le partage et le commentaire permanent que suscitent ces activités. On a donc souhaité interroger les pratiques des jeunes en allant au-delà de cette typologie d'activités pour appréhender, dans une enquête quantitative, le degré de massification des autres usages qu'elles pouvaient générer chez certains jeunes. Donc, par exemple, pour écouter de la musique, la traduction de paroles, en ce qui concerne la lecture de fiction en ligne, la création de chaînes vidéo, le travail sur l'image, etc., pour ne citer que quelques exemples. Et on les a vraiment interrogés finement sur ces aspects-là. Donc on a diffusé un questionnaire en ligne via des établissements scolaires, on a eu 1521 réponses, et pour affiner l'analyse des résultats, trois entretiens collectifs avec des groupes de jeunes sur trois territoires, un conseil communal des jeunes à Poitiers, les jeunes fréquentant le centre d'animation d'un territoire en zone rurale et un groupe de jeunes fréquentant le centre social d'un quartier en politique de la ville. Je ne vais pas présenter précisément les résultats de cette enquête, je ne sais pas comment on retourne en arrière, ça va être là. Qui est en ligne, voilà. On a eu la surprise de voir que les pratiques étaient extrêmement influencées par le genre, beaucoup moins influencées par le milieu social et l'origine géographique. Alors on ne parle pas là de ce qu'offre comme développement possible les nouvelles technologies aux jeunes. On parle vraiment des pratiques qu'ils ont. Et en l'occurrence, dans les milieux les plus privilégiés, il y a moins de pratiques parce que les parents veillent au grain. Et donc, en général, ce n'est pas forcément à cet endroit-là que les jeunes ont le plus de pratiques. Et on a notamment remarqué qu'il y avait des usages accélérateurs des autres pratiques, notamment l'utilisation des réseaux sociaux. C'est avéré être un accélérateur des autres pratiques, traduire des chansons, lire des fanfictions, etc. Et ce qui, moi, m'a le plus intéressé, parce qu'après, chacun va vraiment lire ce qui l'intéresse dans les résultats d'une enquête, c'est que chez les 12-15 ans, qui étaient vraiment notre population représentative, les usages un peu fins, un peu singuliers, étaient certes moins massifs que les usages majoritaires, mais pas négligeables pour autant. Et pour reprendre les exemples cités ci-dessus, la lecture de livres en ligne était pratiquée par 6,4% des jeunes, la traduction de paroles par 9%, la création de chaînes vidéo par 15%. Donc effectivement, c'est des usages marginaux, mais pas négligeables pour autant. Et donc, on concluait cette enquête sur la nécessité de développer une éducation numérique adaptée aux pratiques des jeunes, qui leur donne des prolongements sur leur territoire de vie et de replacer leur culture numérique au cœur des enjeux citoyens et culturels. Et donc, après, moi, je suis partie en Normandie avec mon enquête sous le bras et bien décidée à constituer un réseau d'acteurs analogue à celui qui avait été créé en Poitou-Charentes et puis en Nouvelle-Aquitaine et de fédérer des énergies autour de ça. Et en arrivant en Normandie, je tombe sur un autre collectif qui avait un peu la même typologie, mais qui était beaucoup plus étendue, qui était Badjon la Normandie. Un réseau qui développait l'outil numérique des Open Badge pour favoriser la reconnaissance des apprentissages informels, des expériences, des parcours singuliers de tout un chacun tout au long de la vie. On a travaillé un petit peu avec ce réseau pour essayer de valoriser des formes d'engagement, par exemple, et notamment de voir comment on pouvait favoriser par les open badges des expériences de service civique qui échappaient un petit peu à la qualification, on va dire. Et puis, et moi, ce que ça m'a permis de faire, en fait, c'est de recentrer la question des pratiques numériques des jeunes sur les apprentissages informels. Apprentissage informel qui me semble d'ailleurs pouvoir permettre de distinguer en fait de définir la différence entre la médiation numérique et l'éducation populaire au numérique. C'est un sujet qui m'avait souvent perturbée. Je me disais, mais quelle est la différence? Est-ce que c'est pas justement une sociologie des petites différences de parler d'un côté de médiation numérique et de l'autre côté d'éducation numérique populaire? Et en fait, peut-être que toute la différence est là, parce qu'en fait, on n'est pas du même côté de la technicité. Et d'ailleurs, les animateurs d'éducation populaire, souvent, sont démunis par rapport à leur manque de connaissances techniques. La médiation numérique, elle vise à l'appropriation par tous du numérique, mais en partageant des compétences. Alors que l'animateur d'éducation populaire, une éducation populaire au numérique pourrait consister à s'intéresser plutôt aux apprentissages informels qui sont mis en œuvre et à essayer de les favoriser en allant chercher la technicité dans la médiation numérique, ce que d'ailleurs nous avons fait dans le collectif EducPopNum en nous appuyant sur l'espace Mendès France, sur les petits débrouillards, etc. Et alors j'ai remarqué aussi, enfin en arrivant en Normandie, en essayant de reconstituer un réseau, que pour les animateurs, faire le lien entre d'un côté l'éducation à l'information en luttant contre les fake news, de l'autre côté la robotique, etc., ça oblige à des grands écarts conceptuels qui sont un peu compliqués, et que l'éducation au numérique est pour eux une nébuleuse en fait, qui ne savent pas par quel bout aborder et par quel bout tirer. Alors, un, structurer un collectif d'acteurs, c'est très bien parce que ça favorise l'interconnaissance entre les acteurs, ça permet d'identifier les ressources là où elles sont, etc. Mais elles sont quand même assez faibles. Et les exemples que tu as donnés sont hyper intéressants. Et voilà, j'en ai brassé quelques-uns comme ça, mais ils sont quand même assez peu nombreux. Et donc, la question de l'éducation numérique suscite souvent un sentiment d'incompétence lié à la représentation qu'on peut s'en faire d'une approche technique, alors qu'elle peut être prise en main sans compétences numériques, si on se centre sur les usages et si on va chercher les compétences techniques ailleurs. Et enfin, dernière chose, je me disais, mais les pratiques numériques des jeunes sont un vivier, enfin, en fait, d'intervention pédagogique possible pour peu qu'on prenne la peine de les écouter. Et donc, voilà, une mine pédagogique, je disais, c'est si on veut bien en passer par écouter et mieux connaître les pratiques des jeunes. Et donc, j'ai commencé à débrouiller un petit peu les chevaux de la question des modalités d'appropriation. Je ne sais pas si on voit quelque chose, mais ce n'est pas très grave parce que ce tableau-là, en fait, n'est pas vraiment finalisé. C'est vraiment un outil de travail. Mais l'idée, c'était aussi de débrouiller les pratiques numériques par rapport à deux axes. Ce qui se passe en ligne et ce qui se passe hors ligne. Parce qu'en fait, ce qui complexifie les choses aussi, c'est qu'il y a des pratiques qui sont connectées, il y en a d'autres qui ne sont pas connectées, mais qui ne sont pas pour autant, qui sont quand même du numérique et qui méritent aussi d'être travaillées. Et puis d'un côté, les pratiques spontanées des jeunes et les pratiques accompagnées. Et j'ai essayé de situer tout ça sur ces deux axes. Et de mieux comprendre, d'essayer de dégager quelles étaient les modalités d'appropriation de la culture numérique par les jeunes pour construire des interventions éducatives basées sur ces modalités d'appropriation. Et donc, j'ai proposé en fait un peu l'outil suivant, hein, qui est une cartographie des modalités d'appropriation, des modalités d'intervention éducative qui peuvent être basées sur les modalités d'appropriation des jeunes. Alors, la première... Et donc tout ça dans une perspective d'éducation populaire, donc en partant sur les valeurs de l'éducation populaire. Alors l'appropriation citoyenne, il me semblait qu'elle était en jeu chez les jeunes dans la façon qu'ils ont de partager des informations, d'exprimer leur opinion, de débattre, de défendre une cause. Il y a beaucoup de causes qui sont défendues par les jeunes, la cause animale, celle du climat, celle de la nourriture végane, des choses comme ça. Le fait de devoir appréhender des codes de conduite sur les réseaux, d'appartenir à des communautés d'intérêt ou de passion, fans de groupes de musique, de genres littéraires comme les mangas, de personnages d'animés ou de séries. Et les jeunes sont en permanence en train de sonder les frontières de ces communautés, les différences avec les autres communautés, les rapports d'inclusion ou d'exclusion que cela génère. Et bon, j'estime que c'est une forme d'appropriation de la citoyenneté, mais qui doit évidemment être accompagnée parce que ce sont des premiers pas, et auxquels on peut donner des prolongements éducatifs, et notamment une première étape qui consiste à leur offrir de s'exprimer et d'expliciter ces pratiques dans le dialogue avec un éducateur bienveillant, mais évidemment après l'éducation aux médias et à l'information, l'éducation à Internet et l'éducation aux data, l'initiation à la culture des logiciels et des services numériques libres, peuvent après prendre le relais efficacement pour donner des clés de lecture et favoriser une participation plus avisée et plus avertie, évidemment, que ces premières expériences de la citoyenneté qui se jouent aussi dans la cour de l'école. Hein. Et puis les projets collaboratifs, Wikicitoyens, cartographie participative, projets wikipédiens, permettent, eux, de faire découvrir la facette citoyenne du numérique et de donner un prolongement sur les territoires physiques à leur pratique intensive de partage. Il offre une articulation entre l'appropriation du territoire sous un angle culturel, environnemental, citoyen, et l'acculturation à des outils numériques. C'est un peu l'exemple du projet que tu donnais tout à l'heure. Et j'ai distingué l'appropriation citoyenne de l'appropriation critique, qui en est proche et qui partage éventuellement des objets comme l'éducation à Internet, parce que l'Internet ne fait toujours pas l'objet d'une éducation particulière, alors que c'est une boîte noire pour la plupart des gens. La plupart des gens ne connaissent pas comment ça fonctionne, quelle est la gouvernance. Et les jeunes encore moins que les adultes, alors qu'on s'en sert tous les jours. Et donc l'appropriation critique, eh bien, je pense que spontanément, ils ne sont pas sans développer un arsenal critique qui naît en partie de leur expérience et de leurs échanges entre pairs au sujet des questions de vie privée, de vie publique, d'information, de désinformation, d'irréputation, de harcèlement. Et donc le regard critique qu'ils peuvent porter sur leurs propres usages peut être facilement étayé par un dialogue régulier avec des éducateurs et par l'apport de points de repère et de connaissances précises, notamment en matière juridique. Droit à l'oubli, droit au respect de la vie privée, etc. Voilà, il me semblait qu'il s'agissait d'interroger les facettes d'un vivre ensemble qui possède ses propres codes, en raison des spécificités de la communication en ligne, sa viralité, les traces qu'elle laisse, les données personnelles qu'elle véhicule, mais que, avec les plus âgés, on pouvait commencer à débrouiller les chevaux de questions qui laissent perplexe plus d'un internaute adulte, l'information à l'heure des fake news, mais aussi la question des médias alternatifs, des lanceurs d'alerte, des leaks, le pillage des données personnelles, certes, mais aussi l'ouverture des données publiques et leur utilisation par les citoyens. Voilà, il me semble qu'il s'agit de faire saisir tous ces enjeux et de susciter des questionnements qui dépassent la sphère de leurs seuls usages. Et puis après, on a une appropriation que je n'ai pas osé appeler culturelle, parce que forcément le terme est maintenant un peu dévoyé. Donc du coup, j'ai appelé ça l'appropriation expressive et créative, qui se traduit chez les jeunes par justement le fait de traduire les paroles d'une chanson, critiquer un film, publier ou lire une fanfiction, se filmer exécutant une chorégraphie, détourner une bande-annonce, etc. Sont des formes émergentes de pratiques en amateur dont Patrice Lichy donnait une très belle définition, puisqu'il disait que la pratique en amateur consiste à circuler librement dans sa passion. Et en fait, Internet permet vraiment ça, je pense, et permet aux jeunes de se construire une culture singulière dans l'univers numérique. Souvent des parcours en fait très très personnels et qui n'appartiennent qu'à eux, dans la façon dont ils se déroulent. Et dans cette circulation libre dans la passion, commencent à émerger des formes de pratiques culturelles. Alors évidemment, ces pratiques en ligne peuvent être facilement encouragées, intensifiées, donner lieu à une socialisation sur les territoires physiques. C'est notamment ce qui se passe quand on met en place des festivals de jeux vidéo, des concours de films pocket, des concours de fanfiction, etc. L'éducation à l'image permet d'initier les jeunes au langage et à la grammaire, qui transformera peut-être leur regard et leur propre production spontanée. Et puis, la fabrication numérique offre aussi des pistes d'expressivité avec des nouvelles pratiques, comme celle de la broderie ou de la lutherie numérique, ou comme le détournement d'objets à des fins de création sonore, etc. Et là, on se retrouve un peu à l'interface de l'appropriation technique et de l'appropriation culturelle. De l'appropriation expressive et créative. Et pour en venir à l'appropriation technique, c'est sans doute celle qui est le moins spontanée, en fait, notamment tous les processus de fabrication numérique, etc. Même si certains jeunes arrivent au fil de leurs usages, à découvrir par exemple tout seul la programmation et le code, mais enfin c'est quand même assez rare. Et d'ailleurs, on se dit que ça devrait faire partie maintenant vraiment de l'enseignement, mais au même titre que la lecture et l'écriture, apprendre le code, puisque, comme le disait une de vos journées, il faudrait apprendre à programmer pour ne pas être programmé. En fait, la culture, paradoxalement, la culture technique a été très valorisée par le déploiement des Fab Labs, qui ont fait l'objet de financements publics et qui ont une grande visibilité en fait, grâce à des politiques publiques qui s'en emparaient, mais ça n'a pas vraiment donné d'usage forcément important chez les citoyens. Et voilà. Et donc l'appropriation technique a rarement une dimension éducative en fait, alors que les modalités d'intervention sont nombreuses, souvent ludiques, la robotique, la création de drones, etc. Et que ces apprentissages sont indispensables à la formation du citoyen de demain. Et puis, j'ai ajouté un petit peu à part des autres la question de l'appropriation professionnelle. C'est souvent à l'aune de leur capacité à s'emparer des outils pour diriger leur orientation que sont jugées les pratiques des jeunes et l'agilité numérique des jeunes. Gestion d'une boîte mail, agilité de par rapport au traitement de texte ou par rapport à des fichiers Excel, autant de choses que leurs usages spontanés, auxquels leurs usages spontanés ne les amènent pas, mais c'est souvent là-dessus qu'on évalue leur capacité en fait, numérique. Il y a une confusion permanente qui continue à persister entre informatique, bureautique et numérique. Pour vous dire, les plateformes de formation interministérielles qui proposaient des formations aux fonctionnaires de Normandie proposer comme initiation au numérique donc la suite Excel et la suite Word. Et je veux dire, on est toujours dans cette confusion permanente, alors que la culture numérique n'est jamais définie et n'est jamais enseignée ou transmise. Il y a un excellent logiciel qui s'appelle Pix, qui malheureusement, je crois, n'est resté qu'à sa première phase de développement. Enfin, ça fait un an que je n'y ai pas regardé, mais qui permet vraiment de... Il n'existe plus ? Si, il continue. D'accord, tant mieux. Parce que, en fait, pour y avoir essayé de tester mes compétences, j'ai pu remarquer qu'on parlait vraiment de culture numérique. C'est-à-dire, on a une photo, il faut essayer de retrouver où elle a été faite, grâce aux métadonnées, des choses comme ça. Et ça, c'est la culture numérique. Et ça vaudrait le coup que tous les enfants, tous les jeunes puissent être formés à ces contenus-là. Voilà. Donc cet outil, qui est une toute petite cartographie, permet juste de se dire, tiens, si je suis animateur, cette année, je vais décider de tirer tel ou tel fil, de faire une action sur les cinq champs, ou bien de faire une action que sur la question de créative, expressive. Et voilà, je l'ai conçu vraiment comme un outil d'aide à l'animation. Sachant que, et pour décomplexer aussi les animateurs, et en leur montrant qu'ils peuvent aller chercher des compétences après dans différents endroits, en fait, en fonction des actions qu'ils veulent mener. Et ce qui me tenait beaucoup à cœur, c'était vraiment d'être en phase avec les pratiques des jeunes et de ne pas produire une éducation numérique qui soit déconnectée de leur parcours singulier. Et j'ai pas réussi, par contre, à mettre en œuvre la valorisation des compétences numériques via les open badges. Parce que voilà, après je suis passée dans un autre ministère, mais ça reste un chantier qui les parcours informels qui ont lieu au cœur de la culture numérique par les jeunes et les compétences qui développent les apprentissages informels, je pense que ça fait un beau chantier de recherche. Voilà.
Merci. Heureusement que tu es là. Est-ce qu'il y a une réaction immédiate ? Moi, j'ai une question à poser, mais je la poserai plus tard. Est-ce qu'il y a une réaction immédiate à cette remarquable intervention ? Oui ? Vas-y.
Bonjour, je m'appelle Chantal Bernard, je travaille au rectorat et je suis ambassadrice PIX, justement. C'est-à-dire que c'est un outil qui est effectivement en phase de généralisation à l'heure actuelle et qui est destiné à développer et certifier cette culture numérique, ces compétences numériques chez tous les élèves de collège et de lycée. Donc c'est un programme ambitieux, mais je me retrouve effectivement quelquefois un peu interpellée parce que c'est développé par un groupement d'intérêt public, une start-up d'État, qui utilise donc des méthodes agiles et collaboratives. Donc on est complètement dans ce mélange un peu entre des méthodes très collaboratives qui font penser à l'éducation populaire et puis des méthodes qui, par ailleurs, ne sont pas forcément au service d'un projet très émancipateur. Enfin, et effectivement, quelquefois, j'ai l'impression que même si ce type d'outil est très bien pensé, et je pense qu'il est vraiment tout à fait en phase avec ce que vous venez d'évoquer, le risque, c'est que les choses soient faites de manière un petit peu superficielle et que du coup, j'ai l'impression que la transition numérique actuelle n'est pas suffisamment accompagnée d'une manière générale dans la population française. C'est même source de souffrance pour pas mal de personnes. Et que voilà, il y a un petit peu ce risque-là. Et d'autre part, moi, je fais frémir ma fille qui est dans l'éducation populaire quand elle voit que j'ai envie d'utiliser des méthodes d'éducation populaire. C'est pour faire référence à ce qu'on disait tout à l'heure. Il faut rappeler que ce qu'est l'éducation populaire et au service de quoi elle est. Et bon, quelquefois, on se demande au service de quoi sont ces méthodes de design thinking ou qui sont très, très intéressantes, très novatrices, et qui font vivre des expériences collaboratives vraiment intéressantes. Mais au service de quoi sont-elles ? Voilà, moi, je me retrouve un petit peu... je me fais frémir à certains moments. Voilà, c'était aussi pour vous donner des nouvelles de PIX qui se développe d'une manière qui plaît aux élèves pour l'instant. Et il faut qu'on invente la vie qui va avec maintenant dans les établissements scolaires.
Et je pense que ça pourrait aussi clairement être bénéfique aux adultes, en fait. Et parce qu'en plus, quand on passe les épreuves un peu de cet outil, on apprend plein de choses en fait en faisant aussi.
Et c'est clairement dit que l'objet étant de développer les compétences, il vaut mieux y aller ensemble. Même si ça se présente sous forme de test et d'entraînement et qui donne lieu à un moment à une certification. Mais d'une part, cette certification ne fait que vérifier la sincérité du portfolio qui est établi par chaque individu. Donc chacun en sera à des niveaux différents au moment où on fera la photographie. C'est novateur. Et puis d'autre part, on essaye de porter l'idée que allez-y ensemble et parlez autour de cet outil. Ce qui est bien aussi une dimension très forte dans l'éducation populaire. On a tous des choses à se raconter sur l'habileté dans l'usage du numérique. Voilà, on a des choses à partager avec ses pairs.
Monsieur Boirquet, quelque chose sur le numérique.
D'abord, je vais vous dire que j'utilisais ici le numérique, parce que c'est impossible de lire. Et j'ai fait une photo, j'ai l'amplifié ici, et c'est possible de lire. Et c'est là que je sens qu'il manque l'appropriation culturelle.
Alors,
dans le sens, on a parlé un peu avant, dans le sens de comment amener le jeune gens pour lire les grands textes de la culture, les grands romans, les grands essais philosophiques. Comment utiliser le monde de l'information pour arriver à faire la formation. Peut-être, c'est un préjugement, peut-être il faut oublier la formation des classiques, peut-être. Peut-être le monde, c'est de l'information et non plus de la formation. Mais moi, je résiste un peu. Je ne sais pas si c'est l'âge ou non. Alors, j'insiste. Comment mettre la culture, comment faire la propagation de la culture, et je dis plus, la culture classique.
Ouais.
J'aimerais discuter ça. Il faut le faire,
non, mais complètement.
Il faut oublier les classiques. Et si on n'oublie pas, comment l'amener les classiques au monde moderne?
Non, mais je suis complètement d'accord avec vous. Alors, le terme en France, appropriation culturelle, on ne peut plus le dire, parce que ça désigne maintenant la prise en otage d'une culture, enfin la récupération d'une culture. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ce concept, mais c'est un peu compliqué, donc on se fait un peu taper sur les doigts quand on parle d'appropriation culturelle, parce que ça désigne un phénomène négatif en fait de phagocytage des cultures minoritaires par des classes majoritaires. Mais après, c'est vrai qu'il manque du coup. Alors j'ai mis appropriation expressive et créative, et effectivement ça, du coup, ça, il manque cette dimension d'accès à la culture, enfin au grand texte de l'humanité, etc. Et c'est vraiment, effectivement, en plus c'est vraiment un des mais en même temps c'est ce qui le plus visible sur le web, effectivement, c'est la capacité à trouver en 5 minutes l'Odyssée une poésie, ou effectivement, et c'est vraiment un aspect important, quoi. Mais c'est vrai que dans les interventions éducatives, c'est pas forcément ce qui est le plus. Peut-être que ça se fait plus à l'école aussi, je sais pas.
Non mais c'est un débat qui est, de mon point de vue, essentiel, parce que on est entre nous, donc on peut en parler, mais le fait, petit à petit, pour des raisons qui sont discutables, d'évacuer la dimension culturelle et le mot accès et le mot culturel dans un exposé aussi foisonnant c'est pas par rapport à ça. C'est une invitation à reprendre justement ce regard sur le culturel. Moi, j'ai beaucoup débattu dans les années 90 au Québec sur ce que nos amis québécois ont appelé régulièrement les activités académiques et les activités de plein air. Les activités de plein air étant les activités informelles, mais également d'éducation populaire. C'est un mot qu'ils n'emploieront pas par rapport à des problèmes de vocabulaire ou de culture, etc. Et les questions de l'accès à des choses qui sont proposées par des voies académiques, la littérature, les grands classiques, sont principalement proposées par des voies académiques, sauf si, et c'est là où la cartographie qui est là me paraît essentielle, sauf si on peut proposer via des plateformes d'information, la capacité à accéder à ce genre de choses avec ou en dehors du champ académique. Ça veut dire que le numérique peut aussi réintégrer tout un champ de la culture dont, pour des raisons X, Y, Z, dont on est en train d'être petit à petit éloigné, le temps passe, etc. Donc, cette réflexion, elle m'amène à dire qu'à un moment ou un autre, les acteurs de la diffusion artistique, culturelle, scientifique, technique, aux côtés de la communauté éducative beaucoup plus formelle, devraient résister davantage et être davantage propositionnels par rapport à des comportements qui inciteraient à aller sur des choses très personnelles ou très, entre guillemets, communautaires. Donc là, il y a une extension du possible à avoir.
Mais je pense qu'elle le fait parce que, et même la communauté des utilisateurs, parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui partagent en fait ces grands textes, etc. En dehors des institutions et des plateformes d'information, c'est quand même une activité une des premières activités des internautes de partager des grands textes. Et par exemple, je citais souvent cette expérience par rapport à ma fille qui a découvert Ophélie de Rimbaud sur un site qui s'appelle La Cartoonerie. Parce qu'un de ses pères avait décidé de mettre ce poème en image. Et c'est comme ça qu'elle a découvert Rimbaud. C'est comme ça qu'elle a découvert Rousseau et qu'elle est allée lire des livres de Rousseau. Donc, ça fait partie aussi des apprentissages, des rencontres informelles qui peuvent se faire, même si, évidemment, à chaque fois, il faudrait les étayer par des interventions éducatives. Et c'est au récit de ces exemples qu'on me disait, oui, mais ta fille, elle va lire Rimbaud parce que voilà, elle est dans un milieu qui lui permet de... Mais cette rencontre, elle a existé, elle n'est pas passée par nous, elle est pas, enfin, en tout cas dans ces aspects peut-être les plus visibles.
Patrick, si je puis me permettre juste avant, concernant les classiques, tout ça c'est très mouvant, très construit, et je pense que justement l'appropriation expressive et créative, elle permet aussi d'aller vers, de redéfinir les classiques, et peut-être dans une perspective, et là. Je me permets de l'évoquer puisqu'il y a Nicole Pellegrin ici, d'histoire des femmes, aussi de réintégrer la littérature des femmes dans les classiques. Et ça, je pense que la culture numérique, enfin, si je puis employer ce terme, a un rôle à jouer. En tout cas, tout ça, même l'appropriation citoyenne, elle permet de remettre en branle un peu comme si on avait un panthéon figé de classiques littéraires. Et je pense que c'est le rôle aussi dans une approche d'éducation populaire que de réintégrer et de repenser les choses dans un cadre qui n'est pas figé. Voilà.
Merci. Je voulais juste intégrer un mot qui n'a pas été encore employé, mais j'ai encore l'espoir que dans la journée, on revienne dessus. C'est le mot imaginaire. Alors, imaginaire au singulier, au pluriel, chacun y verra son intérêt ou son terrain d'exploration. Moi, il me semble que, effectivement, la culture classique, mais une culture en dynamique qui doit permettre aussi d'intégrer ces processus d'imaginaire, est à intégrer dans notre réflexion aujourd'hui, enfin je l'espère. Je pense que moi j'ai envie de parler, enfin d'écouter en résonance à ce que pensent les anthropologues et dont certains, je vais le citer, Pascal Plantard, autour de ces questions d'anthropologie de l'imaginaire, puisqu'on a affaire quand même à des outils, les outils numériques, qui sont construits eux-mêmes sur les imaginaires. Et d'ailleurs le mot numérique est déjà obsolète. J'ai assisté il n'y a pas longtemps à une conférence d'un ponte de l'intelligence artificielle qui disait qu'il avait été inspiré par un célèbre dessinateur de bande dessinée dans sa jeunesse et qui finalement a intégré dans son conscient, inconscient, imaginaire, enfin tout ce terrain, cette zone obscure, pour reprendre un petit peu la typologie de Cardon quand il définit les usages sur les réseaux sociaux, les zones obscures, clair-obscur.
Ouais.
J'aime bien cette appellation de clair-obscur. Parce que derrière l'imaginaire se construit quand même l'imaginaire de notre société, qu'on peut réinterroger actuellement. Hein, mais malheureusement, très peu de rencontres se penchent sur ces questions, et un peu sérieusement sur ces questions de l'imaginaire. Pourtant, il existe une littérature importante, oui. Et qui est quand même le socle et la construction de nos sociétés, en tout cas des réactions dans nos sociétés par rapport, on le voit bien avec les réseaux sociaux, ça a été évoqué, les fake news, ce qu'on peut projeter et de façon infinie et surtout de façon dynamique. Je crois que la question, mais ça a été déjà évoqué, l'aspect dynamique que ces imaginaires mouvants emmènent dans ces usages du numérique. Et je peux aussi considérer que les outils sont eux-mêmes constitués de ces imaginaires.
Absolument. Et pour revenir aussi à la question... Alors, on a un petit parcours d'éducation numérique qui s'appelle les imaginaires numériques là, qu'on développe en Normandie en ce moment. Mais ce que je trouve assez étonnant dans cette génération qu'on dit des milléniales, et donc à laquelle correspondait la génération de mes enfants, c'est que on va avoir des contenus culturels d'ordre très différent vont être vraiment mis les uns à côté des autres sans jugement de valeur, mais du coup c'est super intéressant parce qu'ils vont aussi bien aimer Barbara et Akana Mora, et je veux dire sans aucune hiérarchisation. Alors peut-être que c'est à la fois dommage, peut-être qu'ils ne hiérarchisent pas, mais en même temps, ils aiment aussi facilement l'un que l'autre. Et je trouve que ça, c'est super intéressant. Enfin, je suis un peu une enthousiaste de cette génération que je trouve...
Oui. Mais vous êtes là pour ça, monsieur le ministre.
C'est peut-être votre opinion.
Ah oui,
que j'aimerais,
c'est possible.
Est-ce que les jeunes gens, la jeunesse, vont avoir une culture propre plus pense numérique, tout à fait différente, oubliant le passé, ou est-ce qu'ils vont utiliser le numérique pour une culture différente et en même temps avec tous les héritages du passé? Est-ce qu'ils vont approprier les possibilités du numérique? Ou est-ce qu'ils vont être appropriés par les limites du numérique et retournant à l'imaginaire? Est-ce qu'ils vont utiliser toutes les possibilités, y compris des algorithmes? Est-ce qu'ils vont utiliser tout ça pour faire l'imagination voler? Ou est-ce qu'ils vont arrêter l'imagination dans les limites du possible du numérique? C'est une question que je pose.
J'ai évidemment pas la réponse, hein, mais c'est vrai que, en tout cas, il y a des partages intergénérationnels qui sont possibles. Il y a des partages intergénérationnels qui sont possibles et qui, du coup, et là, ça dépend un peu effectivement du capital culturel, mais c'est vrai qu'on peut transmettre un concert, on est allé 20 ans auparavant, on peut le partager avec ses enfants, on peut partager des grands textes. Donc après, effectivement, peut-être que c'est là que va se discriminer ceux qui peuvent intégrer l'héritage culturel à leur pratique et ceux qui ne le pourront peut-être pas. Peut-être que c'est aussi là que les catégories sociales peuvent jouer, ou l'héritage culturel de chacun, ou la capacité à justement en faire quelque chose de différent.
Une dernière question ou une dernière intervention?
Je fais très vite, je voulais juste faire une remarque, parce que depuis tout à l'heure, sur ce qu'on s'est dit, il me semble qu'on a affaire quand même à l'actualisation d'un vieux débat de l'éducation populaire, qui est celle de savoir, faut qu'on distingue probablement ce qui est de l'ordre de ce que les gens peuvent expérimenter, apprendre à un niveau individuel pour se construire comme citoyen. Et de ce point de vue-là, je pense que des trajectoires de gens qui ont fait un peu l'école buissonnière de la culture, etc., ça a toujours existé, et ça existe par le numérique avec des outils nouveaux, mais c'est quelque chose d'important. Et après, il y a ce que les mouvements ou associations d'éducation populaire comme structure peuvent proposer comme projet politique et social pour essayer de travailler cette question-là. Mmh. Et là, on a une tension qui existe depuis très longtemps entre est-ce qu'il faut faire en quelque sorte redescendre la culture, prendre des monuments culturels et essayer d'utiliser ces outils pour en rendre un accès plus important, ce qu'on évoquait tout à l'heure, ou est-ce qu'il faut utiliser ces outils pour permettre à des gens de produire et de faire reconnaître une culture qui leur est propre? C'était un débat qui était déjà là dans les MJC dans les années 70. Est-ce qu'on est là pour reconnaître la culture de rap ou la danse
hip-hop comme étant une culture légitime, ou est-ce qu'on est là pour faire redescendre en quelque sorte des grandes œuvres de la littérature ou de la danse envers le milieu populaire? Je pense qu'on ne peut pas considérer que l'éducation populaire a choisi entre ces deux options, mais a toujours essayé de mélanger un petit peu des pratiques qui permettent de faire l'un avec l'autre, quoi. Et
le ministère de la Culture n'a pas tellement tranché non plus, hein, puisqu'il débat encore entre démocratie culturelle, c'est donc le deuxième terme que tu évoquais, ou démocratisation pour favoriser l'accès à une culture qui serait étrangère à soi.
Bien. Voilà. Donc, nil novi sub solé, disait-on quand on était gamin. On va faire une petite pause technique et café, et puis on se retrouve avec Jean-François Cerisier tout à l'heure, puis notre second intervenant, Éric Lambert, est arrivé. Pour passer de l'autre côté de la cloison, regarder du côté de la recherche et de nos inspirations. On se retrouve dans un petit quart d'heure. On va monter à l'étage pour le café. Merci. Bien. Voilà, nous reprenons en temps et en heure. Merci à celles et ceux qui nous ont rejoints. Alors là, on arrive à un moment de la matinée. Moi, j'appelle ça les morceaux de bravoure. Donc, merci à Jean-François Cerisier, à Éric Lambert de nous avoir rejoints à la tribune. Alors, dans ce type de journée, il y a toujours un moment où on se pose des questions, et les partenariats que nous menons à l'Espace Mendès France depuis assez longtemps avec le monde universitaire, le monde de la recherche, nous amène tout à la fois à trouver les éléments, alors soyons boutiques, de programmation pour divulguer auprès de nos concitoyens les avancées de la recherche. Et là, nous avons deux éminents chercheurs qui, chacun dans leur partie, je vais en dire deux mots, nous permettent d'éclairer nos interrogations, en savoir un peu plus sur ce qui se passe dans les labos, mais également initier un débat qui renvoie à quelques interrogations qu'on a eues tout à l'heure. Et en particulier, pour moi, ne sont toujours pas résolus les questionnements sur l'outil, les usages, les pratiques. Et je reviens sur des termes qui ont été dits tout à l'heure sur cette question des usages personnels qui renvoient à la sphère privée, amateur éclairé ou non. D'ailleurs, il y a le mot comportement que Marielle a cité à un moment sur lequel on n'est pas revenu, oui. Juste comme ça, au détour d'une conversation. Donc pour nous éclairer, Jean-François Cerisier, d'un laboratoire qui est bien connu, Techné. Donc, j'aimerais que tu racontes quand même l'histoire de Techné en deux mots. Jean-Michel Perron, cet après-midi, nous fera un petit retour rapide sur l'histoire du numérique dans l'éducation, nationale, puisqu'on est en France, mais une petite histoire de ce laboratoire, ça permet aussi de faire un retour sur cette thématique. Et puis Éric Lambert, qui travaille dans un laboratoire Poitevin qui est connu, on travaille beaucoup avec vous depuis déjà une dizaine d'années. Donc moi, j'ai vu évoluer la terminologie dans les discussions qu'on a avec nos concitoyens. Donc on est vraiment dans une recherche de compréhension de ce que sont les sciences cognitives, dans une ambiguïté ou un rapport à ce truc qui est entre nos deux oreilles, la masse molle qu'on appelle le cerveau, dont on voit bien qu'il se passe plein de choses en ce moment, du côté des collègues alors biologistes, des neurosciences, et puis quelle relation avec un labo qui est historique à Poitiers, le CERCA, qui a porté d'autres noms par ailleurs avant. Et redire aussi, peut-être à ce moment-là de la matinée, Éric, aussi une petite histoire de ce labo dans une interrogation que moi je me pose. Peut-on poser une question comme penser l'éducation numérique en 2020, à un moment où les usages sauvages, les communautés implicites qui se créent autour de tout ça sont finalement loin d'être aptes ou prêtes à se laisser encadrer dans le futur par une éducation normative qui arrive d'en haut, le sachant disant à celui qui ne sait pas. Je vais aller rapidement là-dessus. Donc, l'histoire du labo, Jean-François, je vais commencer par le CERCA. Oui, je vais commencer par le CERCA parce que. Oui, voilà, exactement. Je vais commencer par le CERCA parce que ça nous permet aussi de rééclairer dans les champs de recherche que vous avez eus depuis, je vais dire, 40 ans, au sein du labo, l'ACO. C'est ça. Avant que d'arriver à Techné, parce que je dirais deux, trois trucs agréables et désagréables à Jean-François tout à l'heure sur cette histoire des techs et des outils au service de l'éducation à l'ère ou à l'heure du numérique. Donc, Éric Lambert, le CERCA, qu'est-ce que c'est ?
J'avais pas prévu de parler de ça.
Eh ben c'est bien ce que je pensais. Hein.
Ouais, je connais un peu, mais l'histoire, c'est une histoire qui est plus vieille que moi. Donc c'est voilà, c'est un très vieux laboratoire parce qu'on a fêté ses 50 ans, si je me trompe pas, il y a 2 ou 3 ans. Donc il doit avoir 52 ou 53 ans ce laboratoire-là. Donc effectivement, il est très ancien. Je me souviens pas du premier nom, mais ça devait s'appeler laboratoire de psychologie, je pense, parce qu'au début il y avait très très peu d'originalité dans les noms de laboratoires. Quand j'y suis arrivé, moi, le laboratoire, effectivement, s'appelait le LACO, langage et cognition. Ça a toujours été un peu les deux mamelles de ce laboratoire-là à l'initial. On travaillait beaucoup sur la question du langage oral, du langage écrit, de l'apprentissage de la lecture, de l'écriture, du langage oral, etc. Et puis, peu à peu, ce laboratoire a grandi. Il est devenu de plus en plus important. Il est affilié au CNRS. Et maintenant, il dépasse. Alors maintenant, donc, son nom, c'est le CERCA, le Centre de recherche sur la cognition et les apprentissages. On a perdu le mot langage dans le titre. Pourquoi ? Parce qu'on est beaucoup plus pluridisciplinaire. Donc parce qu'on a toujours des équipes qui s'occupent de l'apprentissage du langage, toujours des équipes plutôt de psychologie cognitive. Maintenant, on a une équipe très reconnue internationalement de psychologie sociale. On a une équipe qui s'occupe plutôt de motricité, de psychomotricité. Donc il y a 6 équipes dans ce laboratoire-là à Poitiers. On doit être à peu près une cinquantaine d'enseignants-chercheurs et une 20-25 doctorants. C'est donc un gros laboratoire et je dirais qu'il suit un peu la thématique actuelle, c'est-à-dire où on se rend compte qu'il est très compliqué de cloisonner la recherche. Je vais vite. Mais langage et cognition, c'était possible dans les années 2000. Maintenant, on sait par exemple que c'est pas du tout mon équipe, mais que la pratique motrice modifie les capacités langagières. C'est-à-dire que c'est compliqué de dissocier les deux, que le langage véhicule des stéréotypes. Je parle de ce qui travaille en psychosocial. C'est-à-dire qu'on est maintenant sur des choses qui sont assez transversales et donc effectivement les frontières entre les équipes sont un peu floues. Et alors il y a 6 équipes, il y a quand même des thématiques précises, mais voilà, c'est un laboratoire qui embrasse, je dirais, tout ce qu'on pourrait appeler, ce qu'on appelait avant la psychologie expérimentale. En gros, c'est ça. Et je fais partie, moi, d'une équipe qui s'appelle Écriture, pour finir là-dessus, donc qui travaille sur l'écriture, sans aucune originalité. Notre nom va peut-être bientôt changer, mais pour l'instant, elle s'appelle encore Écriture.
Est-ce qu'il y a une équipe pour la lecture ?
Il y a une équipe plutôt, il y a une équipe plutôt pour langage oral et lecture. Il y a une équipe qui s'appelle Koala, elle a un plus joli nom que la nôtre.
Alors, à l'aune de cette histoire et de là où on en est, est-ce que vous vous sentez légitime à apporter une réponse au fait qu'on puisse penser l'éducation numérique ?
Alors, une autre évolution qui apparaît dans notre laboratoire, c'est la volonté, et ça peut peut-être sembler choquant, mais enfin de répondre à des questions sociétales.
Bien.
Mais je comprends aussi qu'on puisse ne pas y répondre. Enfin, je comprends les deux aspects. Mais on peut se dire qu'il faut répondre à quelques questions sociétales. Et que, pourquoi ? Parce qu'il y a une demande. Il y a une demande de l'environnement, enfin de la société sur des questions importantes, des questions. Deux, on a des éléments de réponse. Et trois, ce qui peut être un moment très, très énervant pour nous, c'est qu'il y a beaucoup de fausses informations qui circulent. C'est l'autre problème. C'est-à-dire qu'à un moment, on se dit, on est moins entendu que certaines personnes qui véhiculent des fausses informations. Donc c'est très, ouais, c'est vraiment frustrant. Il y a pas. Alors c'est vrai qu'on a toujours des limites. C'est à chaque fois qu'on dit quelque chose, on dit, ah oui, mais on n'est pas sûr. Il faut répliquer. Il faudra faire encore une étude, etc. Attendez 2 ans, on aura peut-être une réponse. Ça, c'est. Je comprends que quand on est interviewé par les médias, ah oui, mais non, on veut tout de suite une réponse demain. Est-ce que Blanquer a raison d'interdire les téléphones au collège? Mais ce n'est pas si simple. La réponse est compliquée. La réponse est compliquée. Oui, non, peut-être. Enfin, j'aurai peut-être beaucoup plus d'éléments, mais c'est une réponse compliquée. Et de lire tout de suite là, à la seconde, et puis dire qu'en termes binaires, oui et non, c'est quelque chose de compliqué. Mais bref, malgré tout, on s'attache à essayer d'avoir des éléments de réponse à des questions sociétales. Et la question de la question de l'éducation, c'est quelque chose d'important dans notre laboratoire. Et de plus en plus, la question de l'apport des outils numériques. Je ne vais pas prendre mes travaux, je prends par exemple les travaux de Thierry Olive qui travaille. Est-ce que prendre des notes sur un ordinateur en amphi ou prendre des notes sur une feuille et un papier, ça modifie la façon de comprendre le cours qu'on est en train d'écouter? Ben, c'est une question très importante parce que maintenant, dans un amphi, chez nous, il y a 70% d'étudiants qui prennent des notes à l'ordinateur. Et ben, est-ce que, il y a eu une recherche qui a montré quelque chose, et puis nous, on est en train de montrer le contraire, quoi, en gros, sur l'impact de l'ordinateur pour la prise de notes. Donc voilà, on essaye d'amener des éléments comme ça qui peuvent aider à porter, par exemple, de l'aide sur demain, est-ce qu'il faudrait interdire les ordinateurs en amphi pour prendre des notes? Voilà, on peut commencer à répondre à ces questions-là, nous.
Donc là, on est en plein dans la question. Là. On est sur les outils, surtout qu'on n'est pas tout à fait certain qu'on ne prenne que des notes dans les amphis. Ça, c'est éventuellement un autre débat, mais ça fait partie aussi des choses qu'il va falloir aborder sur cette question d'éducation, etc. Alors, je fais comme à la cuisine, je vous mets en réserve oui. Et puis je passe la parole à Jean-François. Oui, tu peux y aller. Ouais, Techné, c'est une longue histoire. Ça a eu un autre nom aussi.
C'est pareil. Techné, c'est comme le CIRCA. Il y a 2 ou 3 ans, on a fêté nos 5 ans. C'est un laboratoire qui a été créé en 2012, donc récent, mais qui s'inscrit dans une histoire. Je suppose que c'est ce que tu souhaites que je raconte, une histoire locale, une histoire territoriale. C'est l'intérêt que ce territoire porte à la question du numérique dans l'éducation au sens large. Les mots ont varié, les mots peuvent varier, mais enfin l'idée est là. Depuis des dizaines d'années. Et quand je dis territoire, je pense aussi bien à la dimension politique, avec notamment les collectivités, tous les projets qui ont été conduits par les collectivités, le département par exemple, ici. Et dans la même histoire, beaucoup d'autres structures, dont celle-ci, celle dans laquelle on se trouve aujourd'hui, et dont l'université et ses laboratoires. Je me souviens dans les années 90, des premières expérimentations d'utilisation d'ordinateurs portables confiés individuellement aux élèves et qui étaient suivis par un psychologue du laboratoire où travaille Eric et qui est ultérieurement devenu président de l'université. Bon, il n'est plus. Enfin, il n'est plus, il est à la retraite. Donc, il y a une véritable histoire. Et en 2012, pour faire simple, eh bien, moi, j'ai eu la possibilité de réunir toute une série d'enseignants-chercheurs autour de la problématique de l'appropriation des techniques numériques dans l'éducation, au sens large, et de chercheurs intéressés par le même thème, mais chercheurs de disciplines différentes. Moi, ma discipline, ce sont les sciences de l'information et de la communication. Mais à Techné, nous sommes une trentaine, toutes catégories confondues, en 2 à 3 fois moins qu'au CERCA. Il y a des collègues de sciences de l'éducation et de la formation, nouvelle dénomination de cette discipline, des collègues informaticiens, sciences du langage, et donc sciences de l'information et de la communication. Et on essaie, ce qui n'est pas évident, hein, de travailler de façon interdisciplinaire. L'équipe est pluridisciplinaire et thématique. Les projets sont interdisciplinaires. Bon, je crois qu'ici, on connaît tous les difficultés de l'exercice, quel que soit le contexte dans lequel on l'exerce, et les limites aussi. Et ce qui nous intéresse, eh bien, c'est l'étude des processus d'appropriation des artefacts numériques, des techniques numériques dans le champ de l'éducation au sens large. On va là où le vent nous mène pour les projets. Le vent, c'est surtout le financement. Parce que vous savez bien sûr, on sait tous que la recherche publique est pauvre. Et Techné, c'est aussi une petite start-up qui, start-up de la recherche, start-up publique de la recherche, qui se finance par les contrats. Et par les contrats, là où les bailleurs de fonds sont prêts à financer un peu les recherches qui n'ont pas toujours un impact économique extrêmement immédiat. Donc, ce n'est pas très évident. Donc, qui nous finance ? Eh bien, essentiellement, secteur public. Et ceux qui nous financent, c'est plutôt le secteur d'enseignement scolaire ou universitaire. Donc, ça colore beaucoup nos travaux. Mais on est aussi, évidemment, très intéressé par tous les autres contextes. Je vous remercie de votre invitation à cette table ronde. Et ce que j'ai entendu depuis ce matin m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup intéressé. Je suis absolument désolé quand même. Comment se fait-il, Marielle, que je vais appeler par son prénom parce que j'ai pas noté son nom, comment se fait-il, Marielle, que vous n'ayez pas travaillé avec nous pour l'étude que vous avez faite? Nous, on aurait été enchantés de travailler avec vous.
Il n'est pas trop tard. Hein.
Ouais, c'est pour ça que je le dis. Et on serait vraiment enchantés de travailler avec vous. Donc voilà. Dire un peu les objectifs du travail de Techné, alors je conserve sur cette question-là à 3 minutes. Un, pour dire ce qu'on fait concrètement et avec qui on le fait aussi. Donc je disais, la thématique générale, c'est l'appropriation individuelle et collective des techniques numériques dans le champ de l'éducation au sens large. Ça se décline en trois... Ce ne sont pas vraiment des axes, ce ne sont pas des équipes, nous on n'est pas assez gros pour avoir des équipes, mais ils ont 3 orientations qui parfois se retrouvent, les trois peuvent se retrouver dans les mêmes projets de recherche. Une orientation qui est plutôt du côté de l'ingénierie des équipements et des dispositifs numériques pour l'éducation et les apprentissages. Bon, essentiellement avec une terminologie consacrée par une communauté scientifique qui s'appelle... environnement informatisé pour l'apprentissage humain. Donc, ce qu'on cherche là à faire, nous, c'est à analyser l'activité des utilisateurs pour mieux comprendre ce qu'ils vivent et comment éventuellement améliorer ou contribuer en tout cas au développement et à l'amélioration des situations qui sont les leurs. Ça, c'est une dimension. Une deuxième dimension qui a été évoquée tout à l'heure, c'est celle des littératies et de la culture numérique. Je pourrais y revenir peut-être. Si tu poses une question, ça m'intéresserait, sur la culture numérique. Et puis, la troisième, qui moi, m'intéresse tout particulièrement, c'est celle de l'analyse des politiques publiques. Exemple, l'an dernier, on a fait une étude pour la Cour des comptes. Enfin, plutôt, la Cour des comptes a fait appel à nous pour une enquête sur le numérique éducatif en France, hein, qui nous a donné aussi un regard tout à fait... intéressant sur ce qui se passe dans le système scolaire sur ces questions-là et qui a montré en particulier l'étendue, si je peux le dire comme ça, des inégalités territoriales. Et dernier point, on travaille dans un écosystème au développement duquel on souhaite participer. Il y a un vrai engagement de Techné. On est un laboratoire qui, comme tous les laboratoires de recherche, cherche à produire des connaissances. Mais on n'est pas déconnecté de notre environnement et on cherche à contribuer au développement de notre écosystème d'innovation territoriale. Donc on travaille beaucoup avec Réseau Canopée, qui est là, l'Espace Mendès France, le CNED, enfin avec tous les acteurs locaux.
Ok, merci pour ce retour. On reviendra sur la littératie numérique. Moi, la question que je me pose, y compris en ayant écouté... les deux exposés sur l'éducation populaire et sur les usages et les pratiques, c'est quel avis en tant que chercheur vous pouvez donner, puisque la question qui est posée ici, elle est indépendamment de la deuxième partie de la question que vous avez sur votre programme, c'est 2 points, quels outils? Avant les outils, c'est quel est votre avis sur cette éventuelle ambivalence, pour ne pas dire ambiguïté, qu'il y a entre le constat d'une éducation encadrée qui a son histoire, ses méthodes, des décennies et des décennies de façon de faire par un corps enseignant, avec un public qui accède à de l'information non contextualisée, qui y participe, puisque la question de l'interactivité ne fait que croître et embellir. Cette interactivité, elle se fait par du texte, plus ou moins bien écrit, mais néanmoins compréhensible, par de l'image, par du son. Quel est votre avis sur cette ambiguïté ou ambivalence dans des apprentissages, dans une formation, dans une éducation? Et puis le deuxième volet, c'est C'est la culture par rapport à ça, donc la question de la littératie. C'est qui apprend quoi à qui dans cet imbroglio intergénérationnel. Donc là, c'est un avis. Juste faire aparté, puisque Catherine Colombo est là. Moi, j'ai été assez ahuri de voir quel était le niveau d'intervention des gamins du Pacte mondial pour le climat. Hein, une dizaine de pays différents, 300 ou 400 gamins qui ont participé à une contribution sur le climat, où effectivement la question de l'intergénérationnel était posée de manière permanente. Et deuxième aspect, la question du début, d'une incompréhension entre nous qui sommes, alors c'est les millénials, hein, c'est ça, nous qui sommes là-dedans, culture numérique en permanence, et vous qui êtes à la tribune, donc j'en faisais partie d'ailleurs à un moment, où le débat mettait en évidence une incompréhension qui n'était pas posée sur le fond, mais qui était posée sur la manière dont on agrégeait des informations, nous partant d'une formation un peu structurée, post-académique, et nos petits, hein, le plus jeune ayant 14 ans et attaquant bille en tête la question des générations. Donc on voit bien que là, on est dans une période intermédiaire où cet imbroglio est à démêler. Et alors, je vais faire un truc à la Mendès France, comme d'habitude. Je ne pense pas qu'on puisse démêler cet imbroglio sans demander aux chercheurs. Alors, cette fois-ci, on est dans plus que du pluridisciplinaire, là. C'est de donner l'état de l'art, mais à un moment ou à un autre, de donner aussi leur opinion là-dessus. Alors, voilà, c'est un vaste débat, mais moi, il me paraît essentiel. On parlera peut-être éventuellement des outils après, ou des méthodes éventuellement. Éric, je vous laisse.
Oui, c'est une question tellement complexe. J'espère qu'on fera des va-et-vient, parce que ça me permet, moi, de. Non, mais. D'accord, ok. Voilà, c'est ça. Alors, effectivement, c'est une question tellement compliquée qui va. C'est une question tellement compliquée qui va très vite et qui fait très peur. Alors, j'ai été enseignant à ce qui s'appelait l'IUFM, ce qui s'est appelé l'ESPE. Et ce qui s'appelle maintenant l'INSPE, c'est-à-dire j'enseignais aux futurs enseignants. D'accord. Et j'ai fait ça pendant 10 ans. Et cette question-là, pendant ces 10 années, est montée en puissance. Ça, c'est-à-dire que c'est une question qui inquiète le monde enseignant. Ça, j'en suis sûr. Je vais donner un exemple. Alors, ce qui me fait très peur, c'est le mot état de l'art. Je ne vais pas faire un état de l'art ici de cette question-là. J'en serais tout à fait incapable sans un diaporama et des notes formalisées.
Je dis que ce n'était pas une conférence.
J'en serais incapable de faire ça. Mais je vais donner juste un exemple. Donc, je suis à la tête d'un projet qui s'appelle DISAP. Et l'objectif de ce projet-là, c'est d'essayer de donner un jeu vidéo aux élèves de primaire plutôt grands, CE2, CM2, pour les aider à apprendre, pour aider les élèves à apprendre la lecture et l'écriture. Ça, c'est pas le cœur du monde. C'est ma question, c'est donc pour tester ce jeu-là, on a été en classe, donc on l'a proposé à des enseignants, et on voit que la question, est-ce que vous acceptez pendant quelques semaines qu'on propose un outil à vos élèves qui c'est un jeu vidéo sur tablette, est-ce que vous acceptez ça? Et là, tout de suite, on a deux réactions très fortes. C'est-à-dire qu'il y a très peu de peut-être. Il y a des oui et des non. Il n'y a pas de peut-être. C'est-à-dire que c'est un sujet qui clive énormément cette question de du numérique, parce que, et je le suppose, mais ça sera sûrement Jean-François qui le dira bien mieux que moi. Enfin, non, je le suppose. Quand j'ai discuté un peu avec les enseignants, le oui et le non vient beaucoup de l'expérience personnelle. C'est-à-dire, ah oui, ben non, mais moi j'ai l'habitude de ces outils-là, ça ne me pose aucun problème. J'en vois éventuellement les avantages. Alors nous, l'outil, c'était pour le tester. On ne savait pas, à la fin, on allait dire, mais peut-être que le jeu ne sert à rien et on va tout mettre à la poubelle, mais il faut bien le tester un moment expérimentalement pour voir s'il y a un vrai bénéfice sur les élèves. Donc on était en phase d'expérimentation. Mais le oui ou le non était presque acquis. C'est-à-dire, ce que je veux dire, si c'était oui, c'était oui, très bien, donnez-nous, mais le testez pas, on va le prendre. Et non, mais jamais on fera rentrer ça dans notre classe. Et je trouve que cette position me semble contre-productive. C'est-à-dire que, déjà, on ne peut pas avoir une réponse, à mon sens, binaire à cette question-là une nouvelle fois. Ça dépend les usages, les pratiques, les outils, l'utilité. On voit, tu parlais de Eric Espéré qui a testé les premiers ordinateurs en classe. Après, il y a eu les premières tablettes en classe. Donc, on parle souvent du hardware en classe et très peu du software. C'est-à-dire que beaucoup, c'est l'outil, mais qu'est-ce qu'on va mettre comme logiciel ou appli sur cet outil et est-ce qu'il a été testé ou pas? Et nous, on s'est rendu compte, c'est pour ça qu'on a fait le projet, c'est que très peu d'outils sont testés. Vous allez demain acheter des trucs pour une application sur tablette pour les dyslexiques. Personne n'a testé chez les dyslexiques. C'est-à-dire que c'est le concepteur qui a dit ça doit les aider. Mais comment? On ne sait pas trop. Bon, ça, c'est le point. Mais ce que je veux essayer. Alors, premièrement, ça clive. Et je reviens sur. Je pense que cette question-là fait l'objet actuellement d'un nombre de fausses informations énormes dans le monde médiatique. C'est-à-dire le numérique. Aussi bien dans les opposants que dans les adhérents, on a deux mondes qui ne se relèvent pas de la science, mais de l'idéologie. Et ça, c'est terrible dans les discussions, parce que c'est tout. En gros, si demain je fais une conférence sur... je travaille en gros, entre autres, sur l'apport des jeux vidéo, je fais une conférence là-dessus, tout de suite, j'ai une question. Ah oui, mais les écrans s'abîment les yeux. Mais, et tout de suite, on mélange tout et on va sur des informations qu'il faut lutter. Il faut presque que je fasse un préambule d'une demi-heure pour parler cinq minutes, quoi. C'est-à-dire que, et c'est compliqué. Donc, bon, juste un premier point, moi, c'était ce côté un peu clivant et donc assez passionné, finalement. Et on peut, au final, on devrait se dire, bah, qu'est-ce que ça apporte aux élèves ? Je parle du monde de l'éducation nationale, hein, j'entends bien. Et puis, bien sûr, qu'est-ce que ça n'apporte pas? Et puis, bien sûr, la question, c'est que souvent, il y a une peur de l'enseignant d'être largement dépassé par les compétences de l'élève ou des élèves qui sont face à eux. Ça peut arriver aussi. Et ça, c'est une perte de pouvoir qui est compliquée à accepter quand on est enseignant. Il faut accepter quand on est face à ces outils-là de décaler un peu la situation de pouvoir et de la laisser aux apprenants moins qu'à l'enseignant, quoi. Donc on a un décalage comme ça, ce qui n'est pas toujours vrai, hein, mais on peut avoir ce décalage-là et ce risque-là, il faut accepter de le prendre aussi. Mais c'est un autre débat, ça. Peut-être que la peur, ce côté passionné, vient aussi de ce côté... je maîtrise pas du tout l'outil, quoi. Et donc, ne le maîtrisant pas, je préfère pas y adhérer.
Jean-François, cette question de la maîtrise de l'outil, elle te paraît, si on avait une gradation à faire entre 0 et 10, ou est-ce que c'est autre chose?
Je vais répondre, je sais pas si je vais répondre à ta question en fait, mais je vais réagir à ta question plutôt qu'y répondre. Alors, quand on fait certains travaux de recherche, c'est vrai qu'on est focalisé sur des questions qui sont très circonscrites, dans des contextes très particuliers, et que ça attire notre attention et l'attention de ceux qui veulent bien nous lire, par exemple, sur des situations qui sont singulières. Il me semble que la question du numérique, elle doit être posée comme ça. La recherche contribue de cette façon-là, mais qu'elle doit contribuer d'une autre façon aussi, et pas que la recherche d'ailleurs, c'est d'abandonner parfois cette vision du détail, parce que ça nous fait perdre le regard qu'on a sur l'essentiel qui concerne les finalités. C'est-à-dire, on peut et on doit chercher à comprendre. Alors, dans l'exemple d'ISAP sur lequel travaille Eric, c'est extrêmement important et ça permettra de poser déjà avec un niveau de généricité un peu plus grand la question de l'utilisation des jeux numériques, par exemple, entre autres questions plus génériques qui sont posées dans cette recherche-là. Mais ça permet de nourrir, mais pas de répondre, de nourrir une réponse, mais pas complètement à une question. C'est, mais finalement, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut aller où? Ça concerne nos élèves, mais pas que nos élèves. Ça concerne plutôt nos enfants que nos élèves. Donc ça rejoint la problématique de l'éducation bien au-delà de l'école, et de se demander, mais finalement, quelle est la place, quel est le rôle du numérique dans cette perspective qui était énoncée tout à l'heure, qui évidemment mériterait beaucoup de temps pour qu'on en discute et qu'on la définisse, et en se référant notamment à Condorcet, mais pas que, tu as raison, qui est celle de la fonction émancipatrice des institutions éducatives, et bien des institutions éducatives, c'est-à-dire l'école, bien sûr, mais aussi la famille, les associations et toutes les autres institutions au sens où elles portent les valeurs culturelles du temps et de l'espace que l'on partage. Et là, il faut bien dire qu'on, pour différentes raisons sans doute, hein, on évoque peu ces finalités. Et on peut avoir des interrogations quand même assez fortes. Tu disais, je crois, je ne sais plus qui évoquait, je crois que c'était toi tout à l'heure, Eric, des questions idéologiques, enfin, qui employait ce terme, où on peut s'interroger quand même, quelle est la finalité du numérique à l'école en France et ailleurs, hein, au service de quel projet est-ce que c'est vraiment au service de l'émancipation des élèves? Mais si oui, laquelle? Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe là entre le préambule d'à peu près toutes les lois sur l'éducation dans le monde entier qui indique cette émancipation comme le but ultime de l'éducation et la mise en place, on le voit en France par exemple, pour le numérique par exemple, d'usage du numérique qui n'ont pas grand chose à voir avec l'émancipation des élèves, mais avec une vision de l'éducation qui est au contraire très normative et très fondée sur des idées de performance qui sont certes intéressantes à condition bien sûr de les restituer dans des perspectives cette fois-ci vraiment émancipatrices et vraiment citoyennes. Donc c'est à mon avis une des façons de répondre de façon détournée à ta question. Et les enseignants sont complètement coincés par exemple, hein, je parle plus facilement des enseignants que des autres acteurs, ils sont complètement coincés dans cette salle sans désigner ni dénoncer personne, mais j'en entendais tout à l'heure qui évoquait ça, c'est-à-dire l'enseignant, il a bien sûr, il est fonctionnaire, il fonctionne, il répond au cadre qui lui est posé par son employeur, que l'on forme à l'INSPE. Et de plus en plus, l'INSPE répond de plus en plus d'ailleurs au cadre de l'employeur. Le numérique est très intéressant pour répondre à cette question parce que le numérique transcende les frontières de l'institution. C'est-à-dire que les pratiques des élèves, comme celles des enseignants, ne sont pas que les pratiques scolaires. À Techné, on a fait pas mal d'études sur justement la façon dont les pratiques numériques des enfants, des adolescents plutôt, en règle générale, circulent ou se construisent entre l'école et ailleurs. On a cherché à comprendre, par exemple, comment les pratiques numériques personnelles des lycéens se développent dans le lycée, indépendamment des pratiques scolaires du numérique prescrites par les enseignants du lycée. Ce genre de questions-là qui nous intéresse. Et ça montre comment l'institution scolaire, cette fois-ci, est en difficulté parce qu'elle est totalement mise sous tension, mise sous pression, bousculée par des pratiques et des attentes qui viennent évidemment pas toujours en phase avec la ligne politique du moment.
Alors justement, la question qu'on posait, tu y as répondu en grande partie. La notion d'outil, c'est pas qu'elle est marginale, mais elle est seconde par rapport à l'interrogation qu'on peut se faire sur cette adjonction entre des contenus qui sont divulgués et un public qui a accès à ces contenus par ailleurs. Ça rejoint la réflexion de Christophe Amboirqué tout à l'heure en disant potentiellement, l'école est partout. Alors, le mot potentiellement, tu ne l'as pas dit, Christophe, tout à l'heure, mais potentiellement, l'école, elle peut être partout. Dès l'instant où l'ère du digital, l'avènement de la totalité des savoirs, on va parler dans le meilleur des mondes, est potentiellement faite, cet avènement permet d'accéder de manière, entre guillemets, encadrée, via des enseignants qui sont censés contextualiser, mettre en perspective, mettant l'appropriation au service de quelque chose digne de ce nom, avec une avancée dans un agenda de connaissances. On ne fera pas de la mécanique quantique à la maternelle, grosso modo, quoique. Simplement, la question que je vais poser par rapport à cette volonté de joindre la communauté éducative structurée, on n'est pas qu'en France, et le corps social tel qu'il permet d'accéder à l'information, et on va revenir sur des problématiques de société, le créationnisme, le climato-scepticisme, les mouvements anti-vaccination, et je vais en citer encore tout un tas, qui sont apportés par le corps social et qui doivent être contextualisés via l'école, le lieu d'éducation ou d'éducation populaire. Donc, par rapport à l'INSPE, Oui, non, mais c'est, par rapport à un lieu où on forme les futurs formateurs. Quand on parle du numérique et de cette confrontation, ça vous évoque quoi, vous, en tant qu'à la fois chercheur, mais également intervenant ? Même si c'est compliqué, il faut...
C'est vraiment compliqué parce que y a plusieurs objectifs. Je suis d'accord avec toi sur la notion de tension. Alors, soyons très clairs, pour devenir enseignant du premier degré, par exemple, on sort avec une licence généraliste, on a 2 ans, et en 2 ans, il faut apprendre tout, normalement, et à mi-temps, en gros. On a 1 an, puisqu'on a 2 ans à mi-temps, et pour devenir enseignant derrière. Donc ça veut dire qu'on a quand même une sorte de problématique qui est, disciplinairement, par exemple, pense que il faut vraiment apprendre à lire, apprendre à apprendre des maths, apprendre. Donc on a comme ça. Et puis, depuis moi, tout le temps où j'ai été, il y a des nouvelles couches qui apparaissent. Il faut apprendre à être, l'enfant piéton. Il fallait apprendre à traverser. C'est à l'école d'apprendre à traverser. Mais véritablement, il fallait apprendre à se protéger en cas d'attentat. C'est des détails, je veux dire, mais à chaque fois, il y a des couches. Et donc, à un moment, on se dit, mais on enlève quoi si on met ça donc, arrive le numérique. C'est juste pour ça que j'en arrive. Il faut rajouter la question du numérique. Alors là, c'est toujours au détriment de quoi si on rajoute ça ou pas. Donc il y avait cette grande question-là, mais avec l'idée quand même que c'était une sorte de vernis très secondaire, pas fondamental. Je pense que jamais, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais en termes dans les programmes que j'ai pu voir, si on a du temps, on va parler de ça, mais c'est pas fondamental. Alors je donnerai pas de jugement de valeur si c'est fondamental ou pas. Mais je veux simplement expliquer quelque chose par rapport à ça que j'essayais de défendre face aux étudiants. C'est l'idée, et là on le voit avec tous les ouvrages actuellement, il y a une sorte de critique très forte face, entre gros guillemets, les écrans. Il y a une grosse critique forte face aux écrans. Et de fait, il y a des critiques que l'on peut légitimement faire. Il est évident qu'il y a un lien causal entre la pratique de la télévision et l'obésité. C'est un lien prouvé, démontré. Il y a la problématique de la visualisation par de jeunes enfants de contenus violents ou pornographiques. D'accord, il y a vraiment des choses négatives. Mais la question qu'il y a derrière, à chaque fois, et donc à partir de ça, on va dire que on doit tout jeter, et il y a maintenant des écoles zéro écran qui sortent, etc. Donc on doit absolument tout jeter. Sauf que c'est un leurre absolu, parce que la question qui va être derrière, c'est que nous sommes face à une injustice, à une inégalité de la capacité des parents à guider leurs enfants sur le chemin critique, créationnisme, etc., de l'analyse de l'image, de l'analyse des contenus, de l'outil, de la protection des données, de l'économie de ses propres données, etc. Donc on a une inégalité des parents. On a une énorme injustice inter-individuelle entre les parents pour ça. Et donc, puisqu'on a une injustice, il faut bien que quelqu'un rétablisse un petit peu de justice face à cette inégalité, à mon sens, et donner les clés, ce qu'on va appeler de méta-analyse, c'est-à-dire d'analyse critique de l'outil, des outils, et de réussir à former, il faut que les enseignants puissent le faire, hein, pour moi, eux-mêmes sont très innés, il y a une grande injustice chez les enseignants, mais soient capables de donner les clés à leurs élèves d'analyse critique et du très jeune âge pour pouvoir se défendre face à toutes ces informations-là ou à tous ces pièges-là. Il y a des pièges aussi, je pense que c'est une mission première, moi, de l'école, et de l'école générale, quoi. Si j'en reviens à une sorte de conclusion, je pense qu'une école zéro écran est une école assez élitiste, au final, pour moi.
Jean-François. Et totalement inéquitable. Bien sûr, alors moi je fais la même analyse. Alors je voudrais revenir un peu en arrière sur cette question de culture et de numérique, mais je vais rejoindre la question. Et puis cette question aussi des discours très négatifs et très systématiquement négatifs qui sont portés aujourd'hui sur la consommation des écrans, avec évidemment le fait qu'il ne s'agit pas forcément de consommation et pas nécessairement d'écran, mais enfin, les discours sont là avec ces mots-là. Alors deux éléments. D'abord, c'est un débat que l'on a connu il y a 40 ou 50 ans. Bon, j'étais pas né, mais quand même. Mais j'étais pas né à la recherche scientifique au sujet de la télévision. Alors, d'ailleurs, le Brésil était pointé comme étant le pays du monde qui avait la meilleure télévision éducative, et les plus grandes préoccupations d'éducation sociale avec la télévision, ce qui n'était pas le cas de la France. Dans les travaux sur la télévision éducative, deux pays ressortaient toujours, le Brésil et le Japon, et avec la chaîne éducative, la NHK. Bref, si on reprend des textes, des analyses scientifiques faites sur la télévision dans les années 70-80 en France, en tout cas, et qu'on remplace, grâce au numérique, on peut faire un recherche remplace facile, on remplace télévision par Internet ou par numérique, ça se lit de la même façon, les mêmes craintes, les mêmes promesses un peu vaines, les mêmes fantasmes, etc. C'est tout à fait intéressant. Un siècle et demi avant, on aurait pu faire la même chose avec l'électricité, qui était censée permettre l'égalité, l'accès à tous les services, etc. Donc, ce sont des fantasmes récurrents. Et c'est assez intéressant de reprendre cette dimension historique, parce que ça veut dire qu'il y a des questions qu'on n'a quand même pas bien réglées, je pense. Bon, alors, la culture, là, et pour pouvoir répondre à la question, moi, je pense que, même si j'utilise aussi beaucoup cette terminologie, parce qu'on a du mal à y échapper, que la culture, je ne suis pas tout seul à le dire, la culture numérique, ça n'existe pas. C'est une construction comme ça, laisser commode d'évoquer la culture numérique. Ce qui existe, c'est la culture, tout simplement. Et notre culture, qui est tout à fait transformée, marquée par le numérique. Alors, si l'école et si toutes les institutions éducatives ont pour objectif final une émancipation, c'est-à-dire savoir vivre dans son environnement culturel, si le numérique a complètement transformé et continuera de le faire, parce que évidemment ça change tout le temps, de transformer notre culture, eh bien ça veut dire que nos institutions portent une très grande responsabilité dans l'éducation au numérique. Pour moi aussi, la question des outils est totalement secondaire. Elle est importante, mais totalement secondaire. Ce qui fait d'ailleurs que si on rapporte cette question à l'institution scolaire, eh bien, on peut se dire que nous nous posons en général la mauvaise question. C'est-à-dire, on se demande, mais que peut-on faire des techniques numériques pour apprendre les mathématiques, le français ou je ne sais quoi ? Ce qui n'est pas une mauvaise question en soi, évidemment. Mais ce n'est pas la question la plus importante. La question la plus importante, c'est comment est-ce qu'on peut accompagner les élèves pour qu'ils acquièrent la compréhension et les compétences relatives au numérique dans notre société et dont ils pourront faire leur miel pour être vraiment émancipés, c'est-à-dire avoir vraiment des usages et des pratiques numériques à leur service individuellement et collectivement. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, parce que moi j'ai beaucoup beaucoup aimé la première partie de la matinée, mais je l'ai trouvée peut-être à tort exagérément optimiste. C'est-à-dire que nous, ce que l'on observe des pratiques numériques des jeunes, c'est surtout beaucoup de difficultés, beaucoup de limites, parce qu'ils n'ont pas eu la chance, pas eu la possibilité d'avoir un environnement favorable. Et là, je partage évidemment, et j'arrête là-dessus, ce que disait Eric à l'instant, c'est-à-dire que l'école n'est pas la seule, mais l'école porte une très grande responsabilité. Elle se doit absolument d'inscrire la question du numérique au tout premier rang de ses préoccupations. Et moi, je prétends ou je postule que le numérique, c'est pas la même chose du tout que, je sais plus les autres exemples que tu as pris, mais je dirais apprendre à nager, moi, et apprendre à traverser la route, qui est la rue, ce qui est évidemment très important. Mais je pense que dans la hiérarchie de l'importance accordée au sujet, le numérique qui traverse à peu près tout et tout ça d'ailleurs doit être mis au premier plan. Alors l'État fait des choses en France à ce sujet, mais il est loin du compte.
Bien, alors on fait un premier point. Moi j'ai envie de vous passer la parole. J'ai encore deux questions à poser éventuellement, mais bon. Est-ce qu'il y a une réaction ou une question
poser. Ah, d'accord. Oui, oui, tu vas récupérer l'affaire. Allez-y, allez-y. Pierre, non ? Notre ami Pierre Perrault.
Moi, j'ai une question, mais elle n'est pas liée à l'émergence du numérique ou la question que vous venez de poser. Elle est plus liée à ce que vous racontiez de la façon dont on a des ludismes. Le mot ludisme, je ne sais pas si tout le monde le comprend. On a des réactions aux technologies qui arrivent. Et moi, j'ai eu la chance d'étudier un peu pour Poitiers la question des technologies et de leur immersion ou de leur émergence dans le champ politique local. Et j'ai envie de faire le lien entre la résistance qu'on peut voir dans les écoles, dans les enseignants, mais aussi dans leurs environnements sociaux, locaux, et ce que vous étiez en train de décrire. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'oppose entre une sorte de patriotisme économique qui fait que le numérique est vécu comme le lieu de l'emploi, le lieu du travail moderne et le lieu d'un développement affiché. Et en même temps que dans les vies sociales, les gens sont face aux inégalités dont vous parlez et que entre ce qu'on leur raconte d'un point de vue très médiatique, mais en même temps très les promesses un peu d'emploi, de modernisation, la Startup Nation, et ce à quoi ils peuvent accéder concrètement dans les environnements immédiats, il y a un décalage tellement énorme qu'ils ont l'impression que le bon, c'est pour les autres. Disons-le tout de suite, le bon, c'est pour les grosses métropoles, et même dans les métropoles, les micro-marais, le marais au sens du lieu parisien, où on a accès à ça, et où il y a les élites dont vous parliez, mais que tous les partenaires, à commencer peut-être par les centres de culture scientifique, mais pensons à tout ce que faisait Orange, qui s'appelait pas Orange, mais qui s'appelait France Télécom, quand ils accompagnaient la sortie du numérique. On est très loin d'avoir ça aujourd'hui. Donc on a l'impression que passe une espèce de grande vague qui va très très vite, qui va de plus en plus vite. On a presque l'impression que maintenant l'intelligence artificielle, dont on n'a encore rien compris, s'est déjà dépassée. Il y a déjà des choses nouvelles qui arrivent derrière. Et en même temps, que localement, l'INSPE n'a pas fait son travail, les enseignants ont peur, et tous les lieux où on peut faire un peu d'éducation, un peu de médiation, etc., ils sont dépassés par la vitesse du phénomène. Donc moi, mon sentiment, c'est que ce qu'on n'arrive pas à raisonner, c'est la transmission, entre guillemets, de la culture, ou sa diffusion. Et ce qu'on n'arrive pas à faire, c'est à s'appuyer pas seulement sur l'école, mais sur tous les corps sociaux qui peuvent l'environner. Alors, entre guillemets, moi, je ne suis pas étonné, puisque dans les travaux scientifiques que j'avais fait sur Poitiers, j'avais repéré qu'il y avait des blocages un peu partout et que c'était compliqué de faire diffuser la culture scientifique. Et notamment, je ne crois pas que la culture numérique change à partir de la culture. Par contre, j'ai l'impression, dans le domaine, par exemple, du gène ou de la santé, on arrive à faire plus facilement des choses. Ce que vous disiez sur le jeu vidéo me frappe. Moi, j'ai un fils qui est et enseignant en langue et vidéo, enfin, fait de l'e-sport. Il réussit absolument pas à connecter les deux. Et je pense qu'il ferait partie des enseignants qui refuseraient le jeu vidéo pour écrire ou pour apprendre une langue dans sa classe. C'est extrêmement surprenant, mais voilà, j'en ai discuté avec lui et j'ai tenté plusieurs fois de lui faire connecter les deux mondes et il ne veut pas. Pour une autre raison que la raison que je viens d'expliquer, qui est la raison sociale, c'est que pour lui, c'est deux univers personnels différents. L'univers de l'enseignement de la langue, c'est un univers professionnel dans lequel il subit des choses. L'univers vidéoludique dans lequel il est, c'est un univers où il s'amuse et où éventuellement, d'ailleurs, il règle d'autres problèmes personnels. Je ne vais pas faire du Winnicott à propos de tous les moments où ils perdent, mais c'est extrêmement intéressant de voir ses enfants perdre quand ils sont dans des phases de jeu et recommencer derrière avec de la rage. Mais c'est des choses qu'on voit devant les jeux vidéo qu'on ne voit pas dans l'école. Ils ont une énergie à recommencer qu'ils n'ont pas à l'école. Mais ça, je ne sais pas si on peut aujourd'hui. Je suis en train d'aborder des choses trop nombreuses, mais en tout cas, pour revenir à ma question de départ, je n'ai pas l'impression qu'à l'échelle locale, malgré tout ce que je sais, par exemple, que la maison fait, et éventuellement les missions qu'ils peuvent aussi, que moi je peux avoir à développer, je n'ai pas l'impression qu'on soit en mesure d'être à la vitesse à laquelle le phénomène numérique est en train de passer du point de vue de la promesse professionnelle, de la promesse économique, etc. On a l'impression qu'il y a une sorte de... Enfin, en tout cas, c'est pas la seule raison, mais en tout cas, il y a une sorte de... Et c'est pas récent. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose de plus large.
Merci. Moi, j'ai été frappée par ce que tu disais du clivage, parce que ça, c'est un truc qui a 15 ans. Et l'environnement numérique évolue de façon absolument vertigineuse. Et le clivage, on en parle toujours de la même façon, en fait. Il y a un petit schéma que je pourrais montrer tout à l'heure qui avait été fait par Pascal Cotentin, qui était délégué académique au numérique à un moment donné, la métaphore du crayon à papier, où il montre la différence entre les leaders et puis les effaceurs qui cherchent à effacer le travail qu'ont fait les leaders, avec toute la panoplie des réactions qu'il peut y avoir entre les deux. Donc il y a ce problème de clivage qui a l'air... j'ai l'impression qu'on avait les mêmes débats il y a 15 ans. Et c'est quand même vachement problématique, quoi. Donc ça, c'est une chose. Il y a la question des avant-gardes, entre guillemets, et puis du peloton de queue sans aucun jugement de valeur, mais ceux qui ont des pratiques, ceux qui testent, expérimentent des choses, et puis la masse qui va les découvrir 5 ans, 10 ans après. Et entre les deux, il y a un fossé important. Et puis après, c'était un peu pour la question de la culture numérique, sans vouloir du tout atteindre à l'universalisme, mais ce que disait Patrick tout à l'heure sur la question des imaginaires. Et d'ailleurs, des outils qui ont été créés dans cet imaginaire-là. Donc, par exemple, le TCP/IP, si ça n'avait pas existé, ce ne serait pas Internet, ce serait le Minitel avec des poches partout liées au monopole des industries. Donc, moi, je suis exagérément optimiste. Alors, on parlait d'espéranto informatique à l'époque, parce qu'en fait, j'ai l'impression que si je n'ai pas cet optimisme, alors j'ai beaucoup de pessimisme sur l'éducation populaire et sur les mouvements d'éducation populaire, mais pour engager l'action et permettre à... Enfin, en fait, on y réussit très peu, mais on fait quand même semblant dans un discours comme ça d'avoir des choses à proposer. C'est pour ça que je disais à quoi bon. Et donc, je pense qu'effectivement, même les outils du numérique, c'est les inventions qui ont été faites, le fait que Tim Berners-Lee, à un moment donné, dit, moi, je ne mets pas ça sous brevet, je le laisse ouvert, et c'est à la communauté de l'améliorer, etc. Je pense que c'est un imaginaire, tout ça, qui est méconnu, pas assez transmis, et qui fonde une culture numérique, mais comme il peut y avoir une pop culture, qui fait partie de la culture universelle.
Je vais vous poser une question ou deux. Didier m'a dit que ça fait quelques ans, il avait 6 ans, il a eu un accident. Il a resté 5 mois à la maison sans aller à l'école. Il a eu...
J'étais bien.
Et il a eu des leçons, il a étudié par télévision.
CNED, un peu.
Hein?
Ouais. Le Centre national
quels seront les avantages d'un garçon d'aujourd'hui, un garçon numérique, avec tous les instruments modernes, vis-à-vis les garçons d'hier? Et quels seront aussi les désavantages aujourd'hui du garçon numérique, 5 mois à la maison, sans aller à l'école?
Allez.
Moi, je veux bien répondre à cette question, c'est facile de répondre, parce qu'en fait, vous avez vous-même suggéré les réponses avec les questions, donc évidemment, ça n'appelle pas de réponse en réalité, votre question. C'est plutôt un commentaire. Évidemment que cette question se pose. Alors on peut y répondre tout de même de différentes manières, et ça rejoint un peu la remarque que vous avez faite, ou plutôt c'est pas une remarque, ce que vous avez formulé juste avant, c'est-à-dire. On peut avoir de l'usage et des potentialités de ces techniques une vision très positive ou pas. Et c'est vrai, création d'Internet, je pense que tout le monde a lu ou devrait lire l'imaginaire d'Internet de Patrice Fléchy. Je pense que vous faisiez notamment référence à cet épisode de l'histoire d'Internet qu'il analyse d'une façon magistrale. Et qui est un intervenant régulier ici... que j'aime beaucoup, et il décrit très bien ce qui est très connu comme étant l'utopie californienne, c'est-à-dire dans les années 60, la naissance d'Internet, ou avec une projection de ces usages vers plus d'égalité, plus de transparence, plus d'accès à la connaissance, plus de développement personnel, plus de collectif, plus de tous ces éléments et ces valeurs qui, je crois, sont partagées ici ce matin, me semble-t-il, dans la tonalité des échanges. Et puis, il montre aussi, ou plutôt l'histoire montre, que ça ne se passe pas comme ça. Et que ça pourrait se passer comme ça, mais ça ne se passe pas comme ça. Et on peut dire la même chose du numérique pour l'école. L'école, c'est une promesse d'accéder de façon bien plus étendue à des connaissances, à de l'information en tout cas, en particulier dans des lieux où on ne dispose pas des moyens matériels d'y accéder sans le numérique. Je pense notamment aux pays africains en disant ça, mais pas que. D'accéder à des activités d'apprentissage qui sont du point de vue didactique ou cognitif plus efficaces, etc. etc. Mais ce n'est pas comme ça que ça se passe forcément. Et donc la question qui est posée dans les deux cas, dans les deux interventions, voire dans les trois, c'est une question qui n'a pas tellement à voir avec le numérique et tout à voir avec le politique. C'est pourquoi est-ce que Internet est devenu ce qu'il est devenu ? C'est pas en raison des caractéristiques techniques d'Internet et de ce qu'on pourrait en faire. C'est du contexte politique et de ce qu'on en fait vraiment. C'est pourquoi je faisais remarquer tout à l'heure en prenant le café à Didier que je ne partageais pas l'utilisation qu'il faisait du mot EdTech dans l'introduction de cette journée. Parce que pour moi, EdTech, ça renvoie à un point de vue sur le numérique dans l'éducation qui est très particulier et qui est le développement d'une économie libérale autour de l'usage qui est fait, ou plutôt de la vente qui est faite des services et des biens numériques. Qui en soi est totalement respectable et j'ai pas de honte à y contribuer à ma mesure quand je disais implication de la recherche dans le développement territorial, dans l'écosystème territorial. Mais en resituant cette question-là à son niveau, c'est-à-dire c'est pas la question principale. Bien sûr qu'il faut qu'il y ait une économie du numérique qui nous permette de disposer des équipements, des ressources, des services dont on a besoin pour faire ce qu'on a envie de faire, être créatif, etc., etc. Moi, je crois aux valeurs très positives qui peuvent être celles des usages du numérique, mais je crois qu'elles sont complètement mises en jeu par des déterminants économiques et politiques, et que si on doit avoir une action éducative, elle est aussi nécessairement très politique. Et que dans l'éducation, le numérique, il doit répondre, de mon point de vue, à quelques contraintes et valeurs. Je les ai énoncées rapidement. Il y en a une, c'est des valeurs positives culturelles. J'y reviens pas, c'est celle dont on parle depuis le début de la matinée. Et puis il y en a d'autres, il y a un certain nombre de contraintes qui doivent être respectées. Alors si je rapporte ça à l'environnement scolaire, je pense pas d'utilisation du numérique, et ça va rejoindre ce qu'a dit tout à l'heure Eric, sans garantie d'efficacité didactique et pédagogique, enfin pour les apprentissages. Quand on va sur le terrain, il y a une telle injonction à utiliser le numérique qu'on voit des enseignants qui s'y résignent en faisant n'importe quoi. Ce n'est pas qu'ils ne sont pas capables de faire très bien, c'est qu'ils font ce à quoi ils croient, ce qu'ils croient devoir faire. Et comme ils ne sont pas accompagnés, pas guidés, pas formés, c'est surtout n'importe quoi. Donc ça, c'est une première contrainte. Il y en a une, elle est éthique quand même, on ne l'a pas évoquée, hein, mais... il y a une dimension éthique à l'utilisation du numérique dans la société en général. Regardons ce qui se passe en Chine pour mesurer la température des gens ces jours-ci, par exemple. Mais on n'en est pas très loin dans les systèmes éducatifs, hein, c'est-à-dire les systèmes d'évaluation qui peuvent être très intéressants pour orienter les trajectoires d'apprentissage et de formation des élèves, peuvent très vite se transformer en système de contrôle. Et c'est très politique, hein, la technologie permet l'un comme l'autre. C'est donc contrainte éthique. Et puis il y en a deux autres qui me semblent très importantes. Il y a une contrainte économique. Acquérir des tablettes essentiellement inutiles pour tous les élèves de France. Je dis c'est essentiellement inutile. Ça sert à qui ? Je sais pas, ça sert à quoi ? Ça sert à qui ? Ça sert à ceux qui les vendent. Parce que les élèves, ils sont déjà équipés. Comme nous tous, on a tous un smartphone. Et on est souvent déjà équipés à titre personnel, y compris quand on est adolescent. De tablette ou d'ordinateur portable. Donc, contrainte économique. Puis la dernière, mais c'est le meilleur pour la fin. Le plus important pour la fin, les contraintes écologiques. Il y a un coût du numérique éducatif pour la planète qui est considérable en termes non seulement d'énergie, mais aussi en termes de matières premières, et par exemple de terres rares, mais pas que de terres rares. On ne peut pas développer le numérique dans l'éducation sans avoir en tête ces contraintes-là. Je crois que ce n'est pas possible. Donc c'est vraiment d'abord une question politique. Et pour moi, avec un point de vue qui met complètement en déroute les visions libérales du monde et donc de l'éducation. Ce n'est pas un point de vue de recherche, c'est un point de vue de chercheur.
Éric, un complément par rapport à ça ?
Dans les questions qui ont été posées, finalement, peut-être ça c'est nouveau dans l'éducation, c'est la vitesse, la progression, la rapidité de la progression de l'évolution des outils, des pratiques, etc. Et en gros, je vais aller vite, mais si je reprends la lecture, alors, malgré tout, en France, on continue à avoir des débats sur l'apprentissage de la lecture, mais on lit depuis des décennies. Donc voilà, le mécanisme, il est établi. Et donc, normalement, on devrait avoir résolu cette question-là. Là, le problème, c'est que si demain, je résous le problème, je ne sais pas, du clavier, peut-être que dans 5 ans, il n'y a plus de clavier. Donc, ça y est, comment faire ? Donc, il faut tout réapprendre. Et donc, je viens de commencer quelque chose. Il faut tout réapprendre. Donc, le problème, c'est la vitesse. Et je pense que ce qu'il faut maintenant travailler, c'est quelque chose d'un cran plus haut. C'est-à-dire qu'il faut accepter que ça va aller vite. Que entre les cours que je vais commencer, peut-être faire à l'ESP pour devenir enseignant, trois ans après, tout va être mis à la poubelle parce qu'on va complètement changer les pratiques, etc. Donc ça ne sert à rien. Donc je pense que c'est inutile de commencer à travailler sur tel logiciel, sur tel machin, puisque de toute façon, ils peuvent disparaître et ils peuvent changer. Je pense qu'il est beaucoup plus important de travailler sur les fondamentaux, c'est-à-dire qu'est-ce qui doit être fondamental pour maîtriser, pour avoir cet esprit critique, pour avoir une culture au sein de ces objets-là. Et je pense que là, actuellement, et c'est pour ça que je vais m'arrêter très vite, c'est qu'on ne connaît pas les fondamentaux. On ne sait pas qu'est-ce qu'il faut apprendre pour maîtriser l'outil d'un point de vue méta. Enfin, je ne sais pas si je suis très clair, c'est-à-dire pas quelque chose de ponctuel. Je prends un exemple très simple. Je fais juste un pas de côté. La qualité et l'étendue de vocabulaire d'un élève va être un très bon prédicteur de sa réussite scolaire. On le sait, ça on le sait depuis des années, etc. La question, c'est... Ah oui, on pourrait dire pareil sur le numérique, je veux faire juste le parallèle. Et donc, on se dit, on va faire des séances de vocabulaire. Voilà, parce qu'on se dit, on va apprendre du vocabulaire, donc on va rendre les élèves meilleurs. Ça ne marche pas. On peut faire des séances de vocabulaire tous les jours à l'école, ça ne marche pas. Et on sait que le vocabulaire s'auto-apprend. C'est-à-dire qu'on ne peut pas apprendre le vocabulaire, on doit donner les outils pour que les élèves auto-apprennent le vocabulaire. C'est la seule façon d'apprendre du vocabulaire. Et entre autres, la lecture est un très bon moyen d'accès au vocabulaire. Et donc, il faut faire donc un pas de côté, pédagogiquement, dire, pour apprendre du vocabulaire oral, il faut que j'apprenne à lire aux élèves. Eh bien, ce cheminement-là, il faudrait qu'on arrive à le faire sur le numérique. Quels sont les mécanismes... moi, je vais dire cognitif parce que c'est mon métier. Quels sont les mécanismes cognitifs que je dois maîtriser pour demain faire des élèves autonomes sur le numérique ? Et je veux juste te donner un exemple. Moi, je travaille maintenant plutôt avec des étudiants à l'université. Et je vois que là, il y a eu échec jusqu'en première année de fac. C'est-à-dire que la notion de qu'est-ce que viennent mes datas, et puis si c'est gratuit, c'est pas grave de donner ces datas puisque c'est gratuit et qu'on n'a aucun esprit critique sur le fait que je suis en train de tout donner. Il y a un adage qu'on a entre nous, c'est si c'est gratuit, c'est nous le produit. Eh bien, c'est exactement ça, quoi. Et cette compréhension de cette notion-là d'économie des données, eh bien, elle devrait être bien avant la fac. Parce qu'à la fac, enfin, je ne sais pas, moi, je pense que c'est vraiment un travail de l'école. Et donc, je reviens, les fondamentaux, je ne sais pas quels sont les fondamentaux. Ça, j'ai pas de... Peut-être qu'il y a des gens qui maîtrisent ça, mais pas moi.
Attends. Monsieur Tréguer, attends le micro.
Enfin, je me méfie un peu de cet adage, qui est certainement vrai, mais est-ce que quand c'est payant, on n'est pas encore les données, quoi ? Enfin, c'est un vrai problème.
Bah oui, peut-être, mais c'est sûr que quand c'est gratuit, c'est nous le produit. C'est-à-dire que ça, c'est sûr. Quand c'est payant, on peut l'être aussi, je suis d'accord. Mais le mirage du gratuit cache toujours un piège, et voilà, il faut en avoir conscience. C'est juste ça, quoi.
Enfin, si je peux me permettre, c'est vrai, mais c'est d'abord les données qui sont monnayées, etc. Oui. Je rebondis sur la deuxième partie, le mirage du gratuit, par exemple, pour le logiciel libre, l'exemple est complètement inverse. Donc il n'y a pas de mirage du gratuit. Il y a aussi des pratiques de la gratuité, des solidarités, oui. des formes coopératives, etc. Donc
Mais
c'est souvent une expression qu'on entend en regard de ça. Donc on se satisferait du libéralisme.
Et mes étudiants de première année, leur problématique, c'est pas de trouver un word gratuit, c'est de savoir combien de temps ils vont passer sur Instagram. Et Instagram, c'est gratuit. Ça peut être 6 heures quotidiens d'Instagram. C'est-à-dire que la capacité de rendre addict aux réseaux sociaux, d'un point de vue mécanisme, a très bien marché. Ils sont super forts. Mais il faut juste en avoir conscience. On peut être addict, mais faut avoir conscience de cette addictologie. Là, il n'y en a pas. Il n'y a pas cette Et donc, qu'est-ce qu'il faut apprendre aux lycéens, aux collégiens, pour qu'ils arrivent à prendre conscience de ça? Voilà, moi, j'en reste à cette interrogation.
Jean-François.
Ce sont deux réactions. La première, c'est peu importe ce qui a été fait ou pas fait avant, là où on agit, on a la responsabilité de le faire. Donc, à l'université, on dit beaucoup de choses sur le profil et les déficiences de nos étudiants. Ils ne savent pas écrire, par exemple, au sens complexe. Éventuellement, ils ne savent pas lire, etc., etc. Je dirais, peu importe. Nous, on les a, ils arrivent. Et la question est, où sont-ils et jusqu'où peut-on les accompagner? Ce qui veut dire qu'il ne faut pas renoncer à faire à l'université à organiser des activités dont on pourrait penser qu'elles auraient dû être organisées avant. Et d'ailleurs, dans presque toutes les universités, on voit apparaître des enseignements de l'orthographe, par exemple. C'est nouveau, puisqu'il y a quelques années encore, on se disait, ah non, ils n'orthographient pas très bien, mais ça a été raté avant, mais c'est pas à nous de le faire. Donc, notre point de vue à l'université a changé, se dire, ils ont des problèmes d'orthographe, ce serait peut-être intéressant qu'on les aide à les surmonter, ce qui ne doit pas être très difficile. Et donc, cette année, par exemple, cette année universitaire, a été systématiquement mise en place à la faculté de lettres et de langues, où on pourrait imaginer que les étudiants arrivant savent lire et écrire, un enseignement systématique, une remédiation systématique pour des questions d'écriture et notamment d'orthographe et de grammaire. C'est décalé, mais pas tant que ça. Donc ça veut dire que pour le numérique, moi je suis totalement d'accord avec Eric, il faudrait que dans l'enseignement scolaire, il serait très intéressant qu'il y ait une prise en compte de ces problématiques un peu différente de ce qu'elle est. C'est très compliqué, mais ce serait bien que ce soit le cas. Mais ce qui ne nous exonère pas de notre responsabilité d'accompagner les étudiants à partir du stade où ils sont quand ils arrivent à l'université. Et là, réaction sur la deuxième question, c'est évidemment, on ne sait pas bien comment il faut faire. Il y a le problème de didactique de ces questions-là, de corpus de connaissances et de compétences, de références. Là, c'est très compliqué et c'est encore plus compliqué parce que effectivement, si on le savait aujourd'hui, on n'est pas sûr que ça vaudrait pour demain et donc c'est très compliqué. Donc, le dilemme est le suivant. Soit on se dit, on ne sait pas faire, donc on ne fait pas. Soit, et moi c'est ce que je préconise, on ne sait pas faire, mais on fait quand même. Parce qu'en faisant mal, c'est mieux que de ne pas faire. Et moi, je préconise que on y... Et d'ailleurs, ce qui est vrai pour le numérique est vrai pour beaucoup d'autres choses. Souvent, on fait avec un peu de bon sens. L'enjeu pour nous, c'est d'étayer le bon sens avec des travaux scientifiques. Moi, je pense qu'on peut intervenir avec beaucoup de travaux qui ont déjà été faits, qu'on peut aider à la formation initiale et continue des enseignants. Même si on n'est pas en mesure de savoir exactement ce qu'il faudrait faire, il y a quand même un certain nombre de points de repère qui sont intéressants. Il y a beaucoup de croyances qui peuvent être déconstruites. Tu évoquais ça tout à l'heure, Eric. C'est pas très satisfaisant parce qu'on aimerait bien tous, je crois, avoir une situation très carrée où on saurait exactement quelles sont les questions, comment y répondre et ce qu'il faut faire. C'est plus compliqué, mais moi je dis tant pis, on y va.
Moi ça m'intéresse. autre réaction éventuellement ?
Ouais, je veux bien rapidement. En fait, ce qu'on se dit là depuis ce matin me fait penser que quand on parle d'éducation, je pense qu'il faut qu'on ait aussi en tête que le numérique a progressivement aussi accompagné une sorte d'individualisation du rapport à l'éducation, mais qui est plus générale en fait. C'est-à-dire que même dans les débats, moi je le vois sous l'angle des débats sur l'éducation populaire, mais je pense que c'est très vrai sur l'école aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les institutions sont omnubilées par la formation d'un citoyen qui est un individu qui doit être employable. Parce que le problème numéro un pour les institutions politiques, c'est le chômage. Et donc, on réfléchit en termes de compétences individuelles. Or, on sait très bien que, par exemple, une des plus-values des espaces éducatifs alternatifs du type de ceux qu'a pu développer l'éducation populaire, mais il en existe d'autres, tient dans le fait qu'il y a une partie des compétences qu'on acquiert qui ne se révèle que dans le cadre collectif. On apprend à faire des choses ensemble, et elles ont de la valeur que quand on les fait ensemble. Et une fois qu'on se retrouve tout seul, on ne sait plus le faire, puisqu'on le fait avec les autres. Voilà. Et donc, il y a des compétences qui ne sont pas transposables, transportables, qui ne sont pas capitalisables à vie. Quoi. Et ça, les institutions éducatives, elles ont vachement de mal à intégrer ça et à se dire, il faut qu'on arrive à penser cet espace collectif d'éducation plutôt que de penser en compétences individuelles. Et je pense qu'il y a quand même une grande partie des ingénieurs qui développent des logiciels qui sont enfermés aussi dans cette contrainte de l'utilisation de individuel. Voilà. Et éventuellement, quand il y a du collectif, il se crée à l'intérieur du processus de la machine elle-même, mais pas forcément dans les usages dont parlait Marielle tout à l'heure.
Moi, je partage complètement cette analyse. Je l'illustre. L'éducation nationale s'est dotée d'un conseil scientifique. Il en avait un déjà auparavant, mais d'un nouveau conseil scientifique qui traite de différents thèmes et qui a, pour ce faire, constitué différents groupes de travail. Alors moi, je fais partie de l'un des groupes de travail qui s'intitule « Intelligence artificielle et numérique » dans l'éducation. Personnellement, j'aurais préféré une autre terminologie, mais bon, le « dans » ne me convient pas trop, mais bon, peu importe. Et ce groupe est récent. Il a été créé en mai, le 17 mai dernier. Non, le 7 mai, je me souviens, parce que j'étais coincé à Paris le 7 mai au soir, parce que c'est une structure parisienne qui pense à se réunir le soir, qui ne pense pas que les poids de vin n'ont plus de train pour rentrer, et que le 7 mai étant la veille du 8 mai férié, ça fait que je me souviens bien de la date. Donc, 7 mai, vous voyez, quelques mois après, on a défini nos orientations. L'objectif de ces groupes de travail, c'est d'avoir un effet concret sur le système éducatif, c'est-à-dire de faire des propositions qui pourront être reprises dans les programmes, dans l'organisation de l'institution scolaire, etc. Ce groupe a déterminé deux thèmes et qui illustrent parfaitement ce que vous venez de dire. Un thème majoritaire, considéré comme plus important, et qui réunit la plus grande partie des membres de ce groupe, et qui porte sur l'intelligence artificielle pour développer des tuteurs intelligents. Tuteurs intelligents, donc, des sortes d'exerciceurs un peu malins qui permettent d'avoir un suivi très individualisé pour améliorer les performances des élèves qu'ils utilisent. Et le deuxième groupe, parce que la technologie permet les deux, hein, comme on le disait tout à l'heure, deuxième groupe, dont je fais partie, travaille sur comment est-ce que le numérique, dont l'intelligence artificielle, peut aider les enseignants à se retrouver pour travailler ensemble.
Donc merci de ces réactions. Est-ce qu'il y a d'autres choses?
Oui, moi je voulais redonner un petit espoir, petite note positive. Nous on utilise par exemple cette année la série Dopamine. Je pense qu'on a toujours une très bonne télévision éducative et Arte TV a fait une série qui s'appelle Dopamine et qui correspond pour moi tout à fait à ce qu'Edgar Morin a fait quand il a publié Enseigner à vivre, où il a évoqué tout ce que les élèves devraient apprendre pour justement avoir des métacognitions face au numérique, les biais d'accès à la connaissance, etc. Et la Dopamine, c'est décliné, c'est une web-série qui est déclinée, Instagram, Facebook et tout ça, comment ça agit sur l'hormone de la récompense, etc. Donc je pense qu'il y a des pistes. Il y a aussi la série Décode Actu, que nous, on utilise pour faire comprendre cette chose compliquée là du gratuit et c'est nous le produit et des rapports avec le GAFAM, etc. Ce sont des capsules pédagogiques qui sont très utiles avec les adultes à l'heure actuelle. Donc je pense qu'il y a quand même des ressources, et avec des médiateurs comme Canopée pour faire connaître ces ressources, qui peuvent concourir par rapport à ces questions-là.
Merci, parce que j'étais venu aujourd'hui en disant il ne faut pas que je sois négatif. Et y a un discours ambiant qui est toujours très accusateur, et merci vraiment de faire ça. Oui, il faut être ultra optimiste. Enfin, c'est, malgré tout, ça reste des outils qui restent des chances. Et c'est vrai, je voudrais dire qu'un mot, parce que c'est vraiment l'orientation de mes recherches maintenant. Je vais revenir sur les jeux vidéo qui n'ont rien de sérieux, mais qui permettent, si demain vous avez des enfants qui passent 4 heures sur Fortnite, vous pourrez être très déprimé, j'imagine, peut-être, mais dites-vous qu'en 4 heures, ils travaillent les réflexes, les fonctions exécutives, la planification, sous tension, toutes ces actions cognitives, elles semblent porter leurs fruits aussi sur des avantages méta. Vous parliez de méta, et donc c'est qu'un exemple, mais je veux dire, oui, merci d'avoir mis une touche d'optimiste, et je me fais violence moi-même pour dire j'aurais dû être beaucoup plus positif, très honnêtement.
Jean-François, dernier mot.
Un dernier mot, deux derniers mots rapidement, pour répondre quand même à ce que disait Eric tout à l'heure. On ne sait pas bien comment faire, mais il y a une chose que l'on sait, c'est que si on ne donne pas de place au numérique dans les institutions éducatives et en particulier scolaires, on n'a aucune chance de développer les compétences et la culture que l'on aimerait voir se développer. Donc ça, au moins, c'est une piste. Et puis juste une information, bon, je pense qu'elle sera peut-être reprise cet après-midi par un autre intervenant, mais j'évoquais tout à l'heure, pour répondre à la première question de Didier, cette idée qu'il existe ici, dans la région Nouvelle-Aquitaine, il en existe ailleurs bien sûr, un écosystème d'innovation sur les questions du numérique pour l'éducation. Ça fait sourire Thierry qui sait ce que je vais dire. Eh bien, ça se manifeste notamment par l'organisation d'un grand forum international auquel je me permets de vous inviter, qui aura lieu le 3, 4 et 5 juin 2020. Nous attendons 5000 personnes environ, avec des thématiques différentes, dont celle qu'on a évoquée ce matin, dans un autre lieu de Poitiers, le parc des expositions, parce que là, la salle est grande, mais pas assez grande, et avec des colloques, aussi un salon et des entreprises qui vont montrer ce qu'elles font, pour un objectif qui est justement que puissent se rencontrer des communautés qui s'ignorent un peu, pour toutes sortes de bonnes et de mauvaises raisons, mais qui ont tout intérêt à travailler ensemble. Donc on le voit bien ici ce matin, le scolaire universitaire avec l'éducation populaire, on partage beaucoup de choses, mais on n'a pas tant d'occasions que ça de le faire vraiment, de prendre le temps de le faire. Donc c'est très important qu'on puisse le faire. Mais on pourrait aussi ajouter les entreprises, parce qu'on peut les stigmatiser un peu comme on l'a fait, mais on peut surtout travailler avec elles, c'est ça qui est important, et on le fait tous les jours. Et aussi les collectivités, parce qu'elles sont quand même à la manœuvre pour prescrire et organiser, les services de l'État évidemment. Donc notre idée, c'est que pendant 3 jours, toutes ces communautés professionnelles et le grand public, bien évidemment, pourront se rencontrer pour échanger sur ces questions et essayer de construire un peu ensemble, parce que c'est la seule façon d'avancer un peu.
Merci pour ces mots qui ne sont pas des conclusions. Alors, avant de se retrouver à 14h, juste redire encore une fois, c'est pour ça que l'évocation du circuit de la récompense me paraît importante, parce qu'effectivement, on est confronté à des mécanismes qui sont un peu universels. Donc j'ai noté que nous allons lancer un projet de SAS de décontamination à l'université, décontamination du numérique, on ne sait jamais, hein, et qu'à l'occasion de ce SAS, on fera un petit peu de lecture et d'écriture, voilà, mais ça me paraît important. Et cet après-midi, nous allons continuer à explorer tout cela autour de Patrick Tréguer, ici présent, Véronique Bélan et Sylvie de Lijon, pour essayer de plonger dans l'action culturelle et dans la création artistique au service de cette autre dimension qu'on a évoquée plusieurs fois ce matin, qui est l'imaginaire, mais également l'exploration de frontières, de choses alternatives. Donc c'est hyper important. Donc à tout de suite. Puis moi, je vais préparer mon exposé sur mon passage en libéralisme pour 17h, quand on fera la conclusion tous les deux. Merci en tout cas. À tout à l'heure.